Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro, où cette semaine je suis avec Croissant, qui va nous raconter plein de trucs, et Nightcrash à la régie. Aujourd'hui, comme le fond de la vidéo l'indique pour ceux qui sont sur YouTube, on va parler de Dorinthea. On vous avait dit la semaine dernière qu'on ferait un focus sur Dorinthea, et
Là-haut.
du coup, on va en parler. Avant ça, on va parler de notre semaine, comme d'habitude, sur Flesh and Blood. Mais pour ceux qui souhaiteraient uniquement avoir le cœur du sujet, Dory, Nightcrash fera tout son possible pour que le chapitrage fonctionne et vous puissiez directement aller au deck tech. Mais d'abord, mon cher Croissant, bonjour, comment vas-tu?
Bonjour, ça va et toi?
Très bien. Comment s'est passée ta semaine sur Flesh and Blood?
Bah, ma semaine s'est trop bien passée, surtout hier, au moment de cet enregistrement, puisque on a enfin, pour la première fois depuis la création de Tour Zéro et depuis plus d'un an de contenu chaque semaine, we have a spoiler. On connaît pas encore la carte, on ne sait pas, on devrait recevoir toutes les infos et tout dans les prochains jours. On espère. On va essayer de faire une vidéo la plus quali possible, avec un truc qui est bien stylé à regarder. Mais du coup, voilà, déjà, enfin, rien que sur le principe, on est trop, trop content d'avoir un spoiler qu'on vous révélera en temps voulu. C'est trop cool parce que c'est un peu une des consécrations en tant que créateur de contenu. Et c'est vrai que ça faisait un moment qu'on était en mode. Bah, on voit des gens passer qui en ont, nous on n'en a pas. Enfin, genre, de toute façon, on l'a déjà dit dans plusieurs vidéos, on en a parlé plein de fois en vrai avec plein de gens. Et c'est vrai qu'il y avait un côté, bah, when spoiler, quoi. Euh,
Where spoiler?
et, et du coup,
Where?
j'espère que dans la vidéo, il y en a qui répondront sur YouTube dans les commentaires dans 2 heures. Parce que sinon, c'est que le Discord français a perdu toute son âme et ça ne va plus. Mais du coup, when spoiler, bah maintenant, enfin dans 2 heures du coup, mais plus tard, parce qu'en fait, on n'a pas encore la date précise. Et du coup, donc ça, c'était trop bien. À part ça, j'ai arbitré un PQ à. Non, c'était la semaine dernière, ça.
Ouais,
C'était
c'est la
complètement
semaine
la semaine
dernière.
dernière. J'ai rien arbitré
Rien
du tout.
arbitré,
Non,
frérot, tu n'as
j'ai
même pas
fait.
joué.
Bah, j'ai pas joué de ProQuest, mais j'ai joué. Alors, j'en parle très très vite parce que c'est pas du flash, mais. Expérience de fou, j'ai fait un WCQ Yugi, j'ai fait 1-4, après j'ai drop, je suis rentré chez moi, je suis allé boire des. J'en ai trop marre. Genre, pour ceux qui connaissent un tout petit peu Yugi, en gros, je fais ma round 1, je perds le dice, mon opponent il résout un combo qui dit tu joues pas au jeu, je fais ok, bah, je joue pas au jeu. Game 2, je pas joué au jeu non plus, je fais ok. Round 2, je joue contre un pote, j'ai brick 2 fois, je perdu. Round 3, je misplay, je perds. Pause repas, on va manger un kebab avec les potes, très très bon, trop cool et tout, trop bien. Je reviens, je suis en mode, allez, 1-2, on peut peut-être essayer de remonter et tout. Je remise play, bon, happens, et je rebrique en plus. Et après round 5, je joue contre un mec, il est là en mode, bah, il me lock avec un combo encore, je n'ai pas joué les 2 games, et je fais, bon, vas-y, casse les couilles ce jeu de merde, je suis parti.
Ouais, c'est ça, il a la main pour le jeu, là.
Non, mais vraiment, c'est. En fait, à chaque fois que je joue à Yugi, je suis en mode, ce jeu pue la merde, genre, ça me rappelle à quel point c'est trop nul.
Pour ça, tu joues à Fab, hein, d'ailleurs.
Ouais,
C'est pour ça
voilà.
que tu as une
Et du
chaîne
coup,
sur Yu-Gi-Oh!
j'ai fait 2 armories la semaine dernière. Alors, une à Ucro, comme d'hab, 4 rounds. J'ai fait 2-2. Je me souviens plus mes match-up, à part que, encore une fois, comme d'habitude, j'ai joué contre Azalea round 1 et ça casse les couilles parce que le match-up est broken. Genre, c'est trop dur. Voilà. Après, je sais plus contre quoi j'ai joué. Je joue contre des trucs. C'était marrant. Voilà. 2-2. Bon. Hop. Si en vrai je compte Arachni qui m'a fatigue slash tué, enfin qui m'a tué, mais parce que genre je voulais pas qu'il me fatigue, sinon il m'aurait fatigue. Et en fait, genre j'ai voulu tester une tech contre, je jouais genre Crown of Dominion parce que j'étais en mode, je jouais Dashayo et j'étais en mode le gold c'est fort si tu sais ce que tu pioches, et de toute façon contre Arachni j'ai pas besoin de bloquer. Puis genre tour 2 il a fait un Leave No Witnesses et je me suis rappelé que Crown of Providence c'était une bonne carte, et du coup j'ai fait bon. C'est pas grave, hein, on est là pour la science. C'était contre Frog, de toute façon, donc j'étais content qu'il gagne et tout, c'était cool, c'était une game très sympa. Je failli la gagner malgré que, genre, mon départ était désastreux parce que, bah, à un moment, lui, il s'est rappelé que, genre, Arachni qui veut fatigue, des fois, t'as des mains où t'as 4 DR et, genre, tu pitches 3 cartes pour attaquer à 2 et t'es en mode, bah, mon deck pue la merde. Et du coup, voilà. Il y avait des tours qui étaient un peu random, mais voilà. Puis après, je crois que j'ai battu Prism et un autre truc. genre peut-être un caillot ou un canot. J'ai peut-être battu un canot, je crois, je sais plus, bref. Lendemain, j'étais parti pour jouer à l'Orcana parce qu'il n'y avait plus de place sur Flèche, et au final il y a une place qui s'est libérée, donc j'ai pu jouer à Flèche. Trop bien, banger. J'ai fait 3-0. J'ai joué contre Prism que j'ai battu. J'ai joué contre... Je sais plus, j'ai oublié, mais j'ai fait 3-0. C'était marrant. J'aime toujours autant le deck. Et je suis toujours aussi convaincu que le deck est pas loin d'être crackbroken. Dans le sens où, je sais pas si c'est des trucs à trouver dans la decklist que personne n'a encore trouvé, parce qu'il n'y a pas tant de gros joueurs que ça qui se sont mis dessus. Et on voit que, genre, bah, récemment, il y a un Tyler Horspool, pour ceux qui suivent le jeu depuis un moment, qui connaissent peut-être. Très gros joueur, alors un peu moins de performance récemment, mais très gros joueur, gagnant de calling et tout, qui s'est mis sur le deck et qui tout de suite a trouvé des innovations que, genre, j'avais vu dans aucune liste avant. Et depuis, tout le monde joue ça tellement c'est, genre, trop bien. Il y a Mara Faris qui a dit qu'elle allait jouer pas mal le deck parce qu'elle aime beaucoup. Et il y a Yan Zhang, pareil pour ceux qui connaissent, très bon joueur qui a fait plusieurs top 9 à des Pro Tours notamment, qui a top 4, je crois, un ProQuest ce week-end avec Dash Kayo, en disant que bah, le deck était très fort et que en vrai. Alors, je sais plus ce qu'il a dit, mais que ça avait été une vraie considération pour lui de jouer le deck au Worlds à un moment. C'est juste que il était tellement bon sur Dromai et Dromai était tellement forte que, en vrai, il n'y avait pas de raison de ne pas jouer Dromai.
Ouais, le deck
au, est un peu dans la finalité. La raison, tu vois. C'est ça, dans la finalité, genre, il était en mode, enfin, il n'a pas développé, mais je suppose qu'il était en mode on teste. Ouais, le deck est fort, le deck fait vraiment des trucs et tout. Mais en réalité, genre, Dromai, c'est juste genre meilleur, c'est plus consistant, je suis trop fort dessus, c'est genre le deck. Enfin, le deck était un peu dans une autre sphère par rapport à certains trucs. Mais du coup, je suis content de voir qu'il y a des gros noms qui se mettent à jouer le deck, qui commencent à dire publiquement, on a réfléchi, le deck était une considération pour l'event le plus important de l'année et tout, parce que ça montre bien qu'il y a quelque chose derrière. Et moi, c'est ce que je répète depuis le début en soi, hein, c'est que l'ability du héros et crack broken.
Mais bien sûr, il y a marqué t'as 5 d'intellect. Genre, ouais.
C'est, enfin, tu vois, genre le truc est crack broken. Et du coup, je suis content qu'il y ait des gens qui se mettent dessus, parce que j'aime toujours autant jouer le deck. Et du coup, c'est cool si ça permet de l'améliorer et de pousser un peu les deck list dans la bonne direction. Donc, j'étais content de ça. Voilà. Et toi, du coup?
Alors. Moi, j'ai fait plein de tournois. Au total, j'en ai fait 4 cette semaine. J'ai fait 2 Armory et 2 ProQuest. Pour les ProQuest, je reviendrai dessus dans l'épisode de la semaine prochaine, puisqu'on compte faire un assez long débrief de la saison de ProQuest, autant en termes de méta qu'en termes d'expérience personnelle de la team. Mais voilà, sur les 2 ProQuest que j'ai fait, j'ai réussi à faire top 8 et finale, du coup. Finale avec le bro Nightcrash où on a split les lots à la fin pour qu'on soit l'un et l'autre le plus contenté possible, mais on a quand même fait une finale tour 0, ce qui est exceptionnel. Mais surtout les armories en vrai qui étaient intéressantes. Ce qui est bien, c'est que ça fait maintenant un mois, je crois, que je joue le même deck à tous les tournois. Je joue toujours Dory Decimator, je n'arrête pas en fait. Le deck est trop bien, j'ai pas trop besoin de réfléchir. Je suis en confiance sur la liste, je suis en confiance avec ce qu'elle fait en ce moment. Et en plus, la méta parisienne est très, 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 très largement favorable au deck. Donc j'en profite. Du coup, aux armories, je crois que j'ai encore fait 4-0. Ouais, je crois que j'ai fait 4-0 jeudi soir.
Alors, c'est pas possible parce qu'on n'a que 3 rounds le jeudi, mais...
Non, mercredi soir, excuse-moi. À Uchronie, j'ai réussi à faire
4-0. Je crois que t'as 4-0, ouais. J'allais dire t'as 3 ou 4-0.
J'ai 4-0 parce que la finale, du coup, je l'ai joué contre un joueur d'un certain calibre. Je l'ai affronté Arthur en finale. Du coup, c'était marrant parce que il était pas sur Dromai, donc et là il était sur Kayo, et vraiment la game avance, et moi je savais comment jouer contre Kayo. Il fait ses trucs et tout, il manque de réussite, bon, il faut bien que ça m'arrive un peu de temps en temps, il défausse des bonnes cartes machin et tout, puis à la fin il perd à la fatigue et il est en mode reste quand même beaucoup de points de vie là, il devait m'en rester genre au moins une quinzaine, un truc comme ça. Ouais. En mode c'est dur quand même. voilà. Et sinon, je crois que j'ai affronté deux Boltines dans la soirée, j'ai gagné. De toute façon, je fais 4-0, donc je me souviens un peu exactement de mes match-up, mais voilà, la dernière game a marqué. Et puis le lendemain, j'ai fait 3-0, du coup, moi aussi, le jeudi à play-in, en battant Kano, Boltin et Victor. Et d'ailleurs, ce qui est très amusant, c'est que ce n'est pas la première fois que j'affronte ce Victor. C'est un très bon joueur parisien qui se reconnaîtra s'il nous écoute. Et ce qui est très marrant, c'est que vraiment, il joue le deck, il se fait giga chier sur le personnage, il est en mode le héros n'a aucun intérêt, le turn cycle est nul, on dort, il n'y a que le pitch stack pour sauver ce personnage. Et du coup, il fait des piles de pitch stack, genre on a joué la game et il était en mode, ok, contre Dory, Decimator, je dois pas penser à mon deuxième cycle, je dois penser au quatrième cycle. Et vraiment, il a pitch stack le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, c'était très amusant. Je finis quand même par gagner parce que j'ai des Last Ditch fortes et un Overpower. Enfin voilà, du coup c'était marrant comme game, ça m'a bien plu. Et puis du coup, bah, les ProQuest, ouais, je reviendrai dessus la semaine prochaine, je pense. Mais
Mais t'as bien perdu,
c'était
et c'est
des
cool.
tournois très sympathiques. Et mon deck, je sais pas pourquoi, mais ça marche. Donc bah, je continue. Et voilà,
Bah,
ça peut aller
je
à
pense
l'autre.
que. De toute façon, on pourra donner les forces quand on va en parler pendant le focus, mais
Oui.
je pense qu'il y a une réalité qui est que il y a beaucoup de gens qui savent pas forcément très bien jouer d'un point de vue macro
Oh,
contre fatigue. Enfin, surtout quand c'est une fatigue qui des fois peut être agressive, parce qu'il y a des moments où genre tu laisses une main à Dory Decimator, t'as 7 ou 10 qui t'arrivent dessus et t'es en mode bah
ouais,
c'est
et puis
bizarre quand même parce que genre. Je dois
c'est
vite
un deck
mettre des
très
cartes pour pas
étrange, ouais.
mourir, tu vois, genre, c'est vraiment bizarre. Et, enfin, tu vois, genre, c'est pas Hold'im,
Ouais, en fait, c'est un truc
tu
que
vois,
j'aime beaucoup
genre...
avec le perso, mais de toute façon, on reviendra dessus plus tard. C'est que les warriors, ça ne dort pas en fait. Les gardiens, pour ne pas dormir, ça a besoin de dépenser beaucoup de ressources, garder quasiment des mains complètes, d'avoir eu de la préparation au tour précédent, machin et tout.
Ouais.
Là, bah, la réalité, c'est que j'ai pas besoin de grand-chose pour mettre la pression sur mon adversaire, et en fait, ça joue beaucoup dans le momentum qu'offre le personnage et l'arme, et ça, etc. Du coup,
C'est clair. Mais du
à
coup,
partir de
parle-nous un
maintenant,
petit peu de Dory.
on parlait de Dorinter. Comme ça, pour le
Alors
chapitrage, pareil,
déjà,
il y a un moment et tout.
voilà. Déjà, pendant que Knight affiche la première liste, parce que évidemment, du coup, la première liste dont on va vous parler dans ce focus, parce que en fait, du coup, on va parler de Dory et de son pool, de ce que fait le perso, de comment le perso peut être joué à travers trois listes et les explications notamment de PDPew. Et la première dont on va parler, c'est évidemment la Dory Hatchet, puisque c'est celle qui est la plus représentative de la métagame actuelle. Et du coup, donc c'est par là qu'on va commencer. Mais est-ce que déjà, tu peux nous rappeler ce que fait Dory? Parce que bon, d'habitude, c'est moi qui fais les focus, parce que c'est moi qui joue tous les persos. Mais là, c'est vraiment le tien, donc je vais te laisser
Ouais.
principalement parler. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu donc ce que fait le perso et pourquoi peut-être jouer Dory plutôt qu'un autre warrior de manière générale? Qu'est-ce que Dory apporte, que ce soit à travers sa capacité ou ses spés par exemple? Depuis combien de temps tu as joué le perso? Enfin voilà, de nous faire juste un petit truc général sur le perso.
Alors, Dorinthea Ironsong, de son nom d'adulte, est un personnage qui est très ancien, puisqu'il fait littéralement partie des quatre premiers héros du jeu. Donc, c'est un personnage de Welcome to Wrath. 4 d'intellect, 40 points de vie, comme tous les premiers héros. Et elle a un seul effet qui dit, une fois par tour, quand votre arme touche, donc pas forcément un adversaire, mais touche, juste hit. Vous pouvez attaquer une fois de plus avec cette arme ce tour-ci. Les warriors, depuis le début, doivent être mis en lien avec les armes qu'ils utilisent. Ce qui fait la force des warriors, c'est le pool qu'ils ont à leur disposition, l'arsenal qui est disponible, comment est-ce qu'ils vont pouvoir l'utiliser. Et en fait, les warriors, dès le début, ont été des personnages assez forts, enfin, surtout Dorinthea. Et en fait, plus le temps passe, plus il y a de cartes qui sont ajoutées au pool de Warriors, plus les Warriors de manière générale, mais Dorinthea plus que les autres, deviennent pertinents. Il y a des cartes qui se mettent à briller, qui avant était un peu moins bien. Il suffit d'une carte en plus pour que toute une stratégie entière soit pertinente, etc. Et du coup, ce qui est important avec Dorinthea, c'est de se dire que elle donne un on-hit à toutes les attaques d'armes, enfin à toutes les premières attaques d'armes de chaque tour. Première attaque d'armes de chaque arme, chaque tour. Voilà, comme ça, c'est plus précis. Ce qui fait que votre adversaire va quasiment toujours respecter les cartes que vous jouez, les armes avec lesquelles vous attaquez, etc. etc. Parce qu'en fait, il ne peut pas juste prendre des dégâts quand vous attaquez avec une arme, parce qu'il sait que si cette arme a go again, on va pouvoir attaquer de nouveau avec, on va pouvoir de nouveau lui mettre la pression. Bien sûr, l'arme signature de Dorinthea est une arme qui synergise avec le fait de taper deux fois par tour, enfin de toucher deux fois par tour. Mais de manière générale, cet effet statique sur n'importe quelle attaque d'arme est très forte pour son arme originale, Dawnblade, mais en fait peut être décliné sur d'autres armes. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir avec la liste qui est la plus représentée en ce moment, Dori Hatchet, où en fait l'effet de Dorinthea est utilisé pour encore plus augmenter l'agressivité du deck et son potentiel quand on lui laisse des mains complètes. Mais Dorinthea a quand même quelques cartes qui justifient qu'on choisisse de la jouer elle et pas un autre personnage warrior. C'est évidemment ses spécialisations qui ne sont pas beaucoup jouées dans la version Hatchet, mais qui sont beaucoup plus jouées dans la version Dawnblade.
Notamment parce que il y en a certaines qui synergisent avec les épées spécifiquement et qui demandent du coup de cibler une épée.
Non. Enfin, il y en a une. Y en a, sur les trois spé, il y en a une seule qui target spécifiquement les épées.
Oui, mais... Du coup, genre, celle-là, il n'y a aucune raison qu'elle soit jouée de Hatchet.
C'est vrai, ça. Alors, le 3P, du coup, de Dorinthea, c'est Steelblade Supremacy, c'est Singing Steelblade et Glistening Steelblade. Vous noterez que c'est très souvent Steelblade, en fait. Et ces trois spécialisations, il y a deux actions et une attaque-réaction. La plus emblématique, on va dire, du personnage, c'est Singing Steelblade, qui est une attaque-réaction... qui a le mot-clé reprise, qui est un mot-clé qui est assez important pour les warriors, puisque il implique que si votre adversaire a défendu avec une carte de sa main, votre attaque-réaction va avoir un effet supplémentaire. Donc, en fait, votre adversaire est obligé de bloquer et vous le punissez parce qu'il a bloqué. Jouer warrior, c'est toujours un jeu de bluff, et le mot-clé reprise en fait beaucoup partie. Et du coup, Singing Steelblade vous permet... si votre adversaire a bloqué avec une carte de sa main, de donner plus 1 à une attaque d'arme, mais surtout d'aller chercher dans votre deck une attaque-réaction et de pouvoir la jouer sur l'attaque d'arme que vous êtes en train de faire. Et Singing Steelblade, c'est un peu ce qui permet de... C'est un peu la colle qui fait tenir pas mal des decks Dorinthea, parce que du coup, vous pouvez jouer des one-off dans votre deck, parce que du coup, vous allez pouvoir les tuto. Vous pouvez jouer plein de petites cartes un peu spicy. Vous pouvez être beaucoup plus consistant quand c'est important, en allant chercher des Gleam the Quicksilver, etc., etc. Mais de manière générale, c'est une carte très représentative des Warriors. Les deux autres spécialisations sont des spécialisations qui se focalisent beaucoup plus sur le fait d'attaquer beaucoup de fois avec la même arme ou avec plusieurs armes, mais en l'occurrence toujours la même arme, puisque Steelblade Supremacy donne plus 2 à une arme ciblée. Et quand elle pioche une carte, et non, c'est une arme. Du coup, tu peux la jouer avec les hatchets. Alors, avec une hache, c'est très bien. Avec les hatchets, c'est moins bien. Et en fait, ce qui est très bien avec Steelblade Supremacy, c'est que ça affecte une arme pendant tout le tour. Ce qui fait que si vous attaquez plusieurs fois avec votre arme, bah, du coup, le bonus de plus 2, il se répète à chaque fois. Et donc, si vous tapez 3 fois avec votre arme, ça fait plus 6. Un on-hit quand même dévastateur, parce qu'on rappelle que piocher des cartes à Flesh and Blood, c'est super fort. Surtout quand piocher des cartes pour les Warriors, ça implique des ressources pour attaquer de nouveau, ou pire, des attaques-réactions pour faire en sorte que ton attaque touche encore. Trop bien. Et l'autre spécialisation qui est beaucoup moins jouée de Dorinthea, enfin, qui est jouée, mais ça varie un petit peu, elle est moins évidente, on va dire, que les deux autres, c'est Glistening Steelblade, qui est une jaune qui dit la Dawnblade ciblée gagne go again, enfin l'attaque de Dawnblade ciblée gagne go again, your next. Et surtout, à chaque fois que Dawnblade touche ce tour-ci, mettez un compteur plus 1 dessus. Mais celle-ci, vraiment, a vocation à snowball sur son adversaire, et du coup est un petit peu moins jouée parce qu'elle est un petit peu moins pertinente. Mais du coup, ce qu'il faut retenir avec les Warriors, et notamment avec Dorinthea, c'est que c'est un personnage qui a accès à un pool très pertinent, qui bloque très très bien. La majorité des cartes de Warriors bloque 3. Et il n'est pas très grave en réalité de bloquer avec une carte de Warriors, puisque je trouve que Warriors, c'est un peu un deck... C'est un peu un deck mid-range par excellence, dans le sens où vous pouvez jouer vos cartes quand on vous le permet. Ça va être puissant, ça va mettre de la pression sur votre adversaire, ça va le pousser à prendre des décisions. Vous pouvez aussi bloquer avec, bloquer très bien, et maintenir une aggression relative qui va varier en fonction des tours, mais qui sera toujours très constante. Le chiffre 3 est toujours présent dans les cartes Warrior. Il est très très rare qu'une carte Warrior fasse 4 points en n'ayant pas coûté de cartes. Par exemple, les 0 pour 4 en Warrior, il y en a très très peu. Et donc quand il y en a, elles sont très importantes. Mais la majorité des cartes de Warrior, c'est 3 points. Donc c'est 3 points en réaction, ou 3 points à la prochaine attaque, ou bloc 3, ou vous utilisez 2 cartes pour faire plus 6, etc. etc., etc. Mais du coup, je vais te laisser parler de Dory Hatchet. Et pourquoi est-ce que le deck est trop stylé, même si on dort un peu.
Alors, Dory Hatchet, autrement appelé gauche-droite chaussure,
puisque... Ah ouais, je veux que ça devienne son nom consacré, hein, vraiment.
Puisque le deck a comme play pattern principal d'attaquer une fois avec la Hatchet de gauche, qui a go again, une fois avec la Hatchet de droite, et en fin de tour de reset le compteur des Valiant Dynamo, donc des chaussures, pour pouvoir rebloquer avec et recommencer au tour d'après. Ce qui fait, si on prend le meilleur scénario possible avec des réactions comme Blade Runner qui donne plus 3, en plus de donner go again, mais si on part plutôt sur la moyenne du deck qui va souvent être à 2 environ, soit via les Spoils of War, soit via les Blade Runner d'autres couleurs, la moyenne quand tu donnes go again va souvent être plutôt autour des 2. On se retrouve sur un deck en fait qui va attaquer pour 2 avec la première hache, donner go again et attaquer pour entre 4 et souvent
c'est 4 et 6.
Sur la deuxième, selon comment vous lui avez donné go again, etc. La deuxième qui est tout le temps boostée au moins de 1, puisque c'est l'effet des hatchets quand vous les suivez en termes d'attaque, elle se booste. Et du coup, vous avez un deck en fait, qui va attaquer avec deux cartes, qui va attaquer à 2, donner go again, attaquer à 3. Plus éventuellement, si le go again vient de Blade Runner, attaquer à plus que 3. Et reset le compteur de vos chaussures. Et du coup, au tour d'après, vous bloquez avec 2 cartes, donc 6 plus les chaussures, 7. Et vous recommencez à attaquer à minimum 5, souvent plus parce que le go again souvent donne un boost. Et du coup, vous faites des turn cycle qui se retrouvent à faire légèrement plus que 3 par carte. Et à le faire de manière très consistante, puisque vous avez beaucoup de sources de go again dans le deck, vous avez beaucoup de bleus qui vous permettent de bien payer vos tours, etc. Ce que disait Hugo est... encore plus vrai dans ce deck-là que dans d'autres versions de Dory, et c'est pour ça que c'est la version qui est la plus représentée en ce moment à mon avis, c'est que le deck est à la fois très consistant de par sa construction, donc c'est un deck qui a un bon nombre de bleus pour payer ses tours, qui a un bon nombre de cartes qui remplissent la même fonction, même si elles la remplissent avec des valeurs numériques différentes, on va dire, c'est-à-dire que Blade Runner jaune est forcément une moins bonne carte quand vous la jouez que Blade Runner rouge. Mais dans les faits, si vous voulez que votre deck soit consistant à appliquer son plan de jeu, c'est la même carte, entre guillemets. C'est-à-dire une carte qui donne go again et vous permet de réattaquer, de reset le compteur de votre Valiant Dynamo, etc. Et du coup, vous avez énormément de cartes qui donnent go again, énormément de bleus. Donc vous avez un deck qui va, tout le temps ou presque tout le temps, pouvoir faire ce qu'il veut faire à chaque tour. Donc déjà, ça, c'est un gros point fort. Parce que avoir un deck consistant quand sa consistance est bonne, c'est... Alors, avec l'upside d'avoir des power cards, mais c'est ce qui a fait que Fai est devenu un des meilleurs aggro à une époque donnée dans le jeu, puisque Fai faisait de manière consistante des tours à 14, en plus d'avoir des power turns avec des power cards, des upsides et tout. Mais c'était ça, sa force initiale. Donc là, déjà, vous avez un deck qui est très consistant et qui est fort pour ça. Le deuxième avantage, et ça, je m'en suis encore plus rendu compte en faisant quelques games avec le deck récemment, c'est que, comme tu l'as très bien dit, Hugo, Warrior et encore plus cette liste en ce moment a l'énorme avantage d'être extrêmement flexible. Ce qui, pour moi, vient d'une certaine manière ajouter à la consistance. Dans le sens où, si votre main elle manque d'un go again, et que votre adversaire vous attaque beaucoup ou que vous n'avez pas une très bonne main, ou bah, votre main, souvent, elle va bloquer 12. Et c'est très bien.
Puisque c'est très bien. C'est ce que veulent faire la majorité des decks, en fait.
C'est la valeur moyenne que vous voulez avoir, c'est une valeur consistante, et encore une fois, ça rentre dans ce truc de on est un deck qui fait tout le temps notre valeur mathématique et qui, du coup, grind petit à petit sur des légers points grattés par-ci par-là, des légères interactions, un bloc qu'on fait mieux que l'adversaire, etc. Donc, pouvoir bloquer 12, c'est extrêmement bien. Par exemple, si on reprend l'exemple de Faille, Faille, les rares mains où il ne faisait pas 14, mais où il faisait moins, c'était des mains parce qu'il n'avait pas de starter ou qu'il avait trop de bleus ou ce genre de choses. Et ces mains-là, même si elles n'arrivaient pas souvent, elles bloquaient très mal, puisque la plupart du deck bloque 2. Et du coup, ces mains-là, quand vous aviez ces mains-là et que ça bloquait pour genre 7, c'est horrible comme valeur. Si vous pouvez soit attaquer à 3 et bloquer genre 6, soit bloquer 7, votre main est plus la merde. Genre, c'est, tu vois. Et donc là, quand vous pouvez pas faire votre plan de jeu de bloquer 6 plus 1 des Valiantes et de attaquer pour genre entre 5 et 6, enfin entre 5 et 7, pardon, vous pouvez juste bloquer 12. Vous avez fait vos 12 points, vous êtes content. Quand vous devez bloquer un peu, jouer un peu et que votre main le permet, c'est ce que veut faire votre deck, c'est ce pourquoi il est conçu, on est content, on fait les 12, 13, des fois 14 de maths par tour, trop bien. Et lorsqu'on vous laisse une main plus grande, parce qu'on essaye de set-up, parce qu'on ne veut pas se faire fatiguer, parce que l'adversaire a brique, parce qu'on est dans un match-up où on a la liberté de prendre des dégâts, puisque c'est des dégâts qui n'ont pas forcément beaucoup de valeur en termes de on-hit, etc. Et bien là, on a des mains qui vont faire beaucoup plus que 12. Puisque, premièrement, on a des power cards qui sont moins flashy que Art of War ou que Ancestral Harmony ou que Spreading Flame, ce genre de choses. On est d'accord. Elles sont moins flashy. Elles sont moins flashy que dans un deck action. J'ai pas dit qu'elles étaient moins bonnes. J'ai dit qu'elles sont moins flashy. C'est moins... Regarde, je joue Art of War, tu sais que le tour va faire 25 et que tu vas prendre la sauce. Et genre, on le sait, c'est noté dessus. On voit sur la carte qu'elle fait plein de points, tu vois.
Bah, par contre, fait, les power cards du deck sont des cartes qui te permettent d'avoir un edge sur la capacité que ton adversaire a à bloquer tes attaques. Parce que les attaques de Hatchet, elles sont très régulières. Ça va être 2 puis 5, 2 puis 6. Et l'adversaire, il peut mettre des cartes devant, il ne va rien se passer. Les power cards de Dory Hatchet, c'est Blade Flurry et Spillblood, des cartes qui vont dire soit tu n'as pas vu venir les dégâts que je vais t'infliger avec Blade Flurry, puisque c'est une attaque réaction, soit tu ne pourras pas bloquer mes Hatchet parce qu'elles ont Dominate ce tour-ci. Et donc, tu prends un edge sur les points de dégâts que tu infliges ce tour-ci, points de dégâts qui vont se faire ressentir à la fin de la partie, quand l'adversaire il devra bloquer et qu'il ne pourra plus. Parce qu'en fait, il n'a plus de cartes.
Et surtout, pourquoi c'est hyper important de donner Dominate ou de le faire en réaction parce que, et c'est là où on arrive sur pourquoi c'est Dory la meilleure liste de Hatchet et probablement la meilleure Warrior, en tout cas standard à l'heure actuelle, puisque Boltin, il a la classe Warrior, mais pour moi, Boltin est moins un Warrior, dans le sens où il joue moins purement autour de ses armes, il a beaucoup plus d'attaque action card, il a un plan de jeu qui est très différent, et c'est un deck qui est un peu plus particulier. Et donc là, je vais surtout parler par rapport à Dory, Kasai et Olympia. Et du coup, pourquoi Dory, c'est a priori le meilleur des trois à l'heure actuelle, en tout cas pour ce plan de jeu à Hatchet, parce que, en fait, sur ces tours de power card qui vont forcer souvent vos Hatchet à hit, ou même contre des decks qui ne veulent pas bloquer et qui vont laisser passer des hits, Dorinthea transforme rapidement une carte comme Hit and Run en un pur Go Again, en maintenant un Go Again, plus 3, plus re 3 d'une autre attaque parce qu'on a donné Go Again à la précédente. Parce qu'en fait, quand l'adversaire va laisser passer une attaque, soit parce qu'il ne veut pas la bloquer, soit parce qu'il ne peut pas la bloquer, Blade Flurry et Spillblood comme on l'a dit, vous transformez les X points que vous mettez avec la chat initiale en à minima 3 points de plus que vous remettez à la fin de la chaîne, si vous êtes capable de donner Go Again à la deuxième pour pouvoir attaquer une troisième fois. Et ça, c'est la grosse force de Dory. Et c'est ça qui fait, notamment, la capacité du deck à utiliser des mains de 5 cartes. Parce que on voit qu'à part pour donner Go Again, il n'y a pas tant de réactions que ça. Contrairement à des listes de Dawnblade, par exemple, qui, quand on va leur laisser une main de 5 cartes, vont souvent être en mode bah, « Je donne Go Again, je t'attaque, j'ai encore 3 cartes en main, un ou deux pitchs ouverts. » Je te regarde, combien tu penses que j'ai de réaction en main et combien tu penses qu'elle mette. et c'est très dur à anticiper, et ça peut aller de 6 ou 3 s'il n'y a qu'une seule réaction à 12 ou voire plus s'il y a des Singing Steelblade dans l'eau, des trucs, des machins. Et là, ça va plus être qu'on va pouvoir garder une main qui, au lieu d'avoir un go again parce qu'on a bloqué avec l'autre, a deux go again, et au lieu d'avoir deux ou trois ressources, on a maintenant 4 ou 5 parce qu'on avait un vigor d'avant ou parce qu'on peut garder une carte de plus pour pitcher. Et dans ces cas-là, en fait, vous allez plus faire 2 puis 6 puis pass turn, reset dynamo et on est bon, mais vous allez faire 2 puis 9 puis 3. Dans le cas où vos Gogen, c'est des rouges, c'est Eaten Run et Blade Runner rouge, évidemment. Donc, un peu dans le meilleur des cas. Mais vous allez faire, disons que vous allez faire genre 2 et... là où avant, vous y êtes 2 et 4, là, vous faites 2 et 6. Et vous réattaquez pour 3 après. Et du coup, vous ajoutez 3 points de dégâts. Et si c'est un tour de Spielblood, bah, la dernière hache prend le plus 2 aussi. Donc, en fait, vous ajoutez pas 3, vous ajoutez 5 points de dégâts grâce au fait de faire une attaque de plus. Si vous gardez un hit and run pour donner go again à l'arme du milieu, comme vous avez déjà attaqué, le hit and run, au lieu de juste être une carte qui donne go again et qui du coup perd un peu en value, bah là ça donne go again et en plus ça booste à hauteur de 3, 2, 1. Donc la carte devient bien plus intéressante. Et du coup, c'est tout cet aspect-là de bah, si on me laisse 5 cartes, je vais être capable dans la plupart des cas de l'utiliser et de les rentabiliser. Si on me laisse 0 cartes, c'est pas grave, j'aurais quand même fait ma valeur minimale que j'attends par tour. Et si on me laisse 2 cartes, c'est exactement le plan de jeu que je veux avoir et ce pourquoi mon deck est construit. Donc on est bon. Et tout ça, on fait un deck qui est à la fois flexible et consistant et qui en fait sa force dans la méta actuelle. Aussi parce que, honnêtement, à part un ou deux decks aggro qui peuvent viral, les decks en ce moment sont relativement fers par rapport à une époque où il y avait des Lexi, des Hold'em, etc. Et en fait, Dorin Thea Hatchet, c'est par définition, le deck mid-range, comme tu l'as dit, qui est fair, mais qui te grind sur des petits avantages et des petits points par-ci par-là. Et le deck est très fort pour ça, encore plus depuis la sortie de Heavy Hitters, puisqu'il a gagné des bonnes cartes pour la stratégie, notamment Blade Flurry, mais aussi Shift the Tide of Battles, qui est un enabler à faire tes tours 3 attaques, ainsi que des générations de token agility, comme les Take It on the Chin, ou les Goblet of Blood Run Wines, qui sont des cartes qui sont aussi extrêmement intéressantes pour enable un go-again gratuit au départ et du coup pour pouvoir garder ta carte qui donne go-again dans la main pour faire ton troisième swing. Et du coup, tout ça, c'est des choses qui sont venues apporter de la consistance au plan de jeu de Dory et qui sont venues ajouter des cartes qui permettent mieux de rentabiliser tes 25 cartes. Donc c'est vraiment tout ce dont le deck avait besoin pour genre prendre sa place de tier S. Et c'est vraiment un deck qui récompense le fait de connaître ses fondamentaux, de savoir quand bloquer et comment bloquer, de savoir comment évaluer chacune de ses cartes. Parce que typiquement, quand on a un hit and run, garder hit and run plus une bleue, ça va nous générer 6 points de value. Puisqu'on va faire hit and run, on va attaquer à 2, go again, on va attaquer à 3, on va reset nos dynamos et on va faire 6 points overall. 2 plus 3 plus 1. Maintenant, dans certains match-ups, ça va être plus intéressant de bloquer avec le hit and run et la bleue, et faire les 6 points directement parce qu'il y a un on-hit ou parce que vous allez plus jouer au HP que dans d'autres match-up et où du coup les HP sont plus importants parce qu'il y a des moments où vous ne pourrez pas les bloquer. Ou à l'inverse, ça peut être intéressant de garder une voire deux cartes de plus pour non pas que le hit and run ne soit qu'un premier go-again initial et pas de buff, mais pour garder un autre go-again pour que le hit and run puisse donner go-again et buffer la deuxième hache et la deuxième attaque. Et tout ça, c'est des trucs qu'il faut connaître en termes de, moi, ce que j'appelle la macro, c'est-à-dire connaître votre rôle dans le match-up et connaître comment vous êtes censé jouer le match-up pour le gagner. Mais c'est un deck qui récompense très bien ça, parce qu'encore une fois, il est très consistant et très flexible dans sa manière de jouer ses tours et dans sa capacité à s'adapter et à venir coller au mieux à ce qu'il vous faut dans la situation par rapport au match-up que vous êtes en train de jouer et à la sortie de votre adversaire. Ça, je crois que je ne l'ai pas dit, mais ça, c'est la liste de... qui est là, qu'on mettra sur le compte public de Tour Zéro, enfin, qui est déjà sur le compte public de Tour Zéro sur Fabrari, donc vous pouvez aller la chercher, comme toutes les decklists qu'on vous présente dans les podcasts. Et elle sera évidemment, le lien sera évidemment en description. C'est la liste de Maximilian Klein, donc qui a fait top 2 au Pro Tour, mais c'est une liste qui est post LL de Dromai, donc qui a moins de tech pour Dromai, mais qui a du coup un peu plus de place pour autre chose, Globalement, ça n'a pas changé énormément de choses. Hein. Si tu peux descendre un tout petit peu là, et qu'on voit un peu le sideboard également, puisque là, je pense que les gens sur YouTube ont bien vu le mainboard. Globalement, dans le sideboard, on a des DR qui viennent augmenter notre capacité à bien se défendre quand on veut vraiment pousser cette capacité-là. On a des CNC et parce que c'est juste une très bonne carte. On a le troisième Hold the Line, on a des Singing CL. Enfin voilà, on a quelques tech cards, des cartes qui sont juste génériquement bonnes comme les DR. Et on a un truc surtout dont je veux un tout petit peu parler, et on reparlera bien plus en détail après avec PDPew lorsqu'il va vous parler de la deck tech de Dory Decimator. Mais c'est la Decimator qui a été ajoutée, qu'il ne jouait pas au Pro Tour, mais qui est là notamment pour des match-ups qui commence un petit peu à se réveiller depuis le départ de Dromai, comme Usuri ou comme Arachni ou encore Riptide, qui sont des match-ups qui pourraient être compliqués sans Decimator, parce que Riptide notamment, par exemple, on active tous ses pièges en donnant Goigen à nos attaques, etc. Donc on se ferait vite gratter. Et là, en fait, Decimator, on est juste en mode, bah écoute, on va rompicher, mais c'est pas grave, je vais pitcher une bleue, je vais t'attaquer à 4. Et si tu bloques pas, je te mets une cloque. Et si tu bloques, tu vas juste mourir à la fatigue, parce que tu vas dépenser plus de cartes que moi. Et du coup, c'est un ajout qui, je pense, est très intéressant et qui montre la force que peut avoir cette arme dans des match-ups où attaquer pour 4 et forcer l'adversaire à dévaluer une valeur défensive alors qu'il aimerait bien pouvoir défendre, c'est très fort. Et voilà, je sais pas si toi, tu as des choses à ajouter un peu sur cette liste-là spécifiquement, mais je pense que cette liste-là, elle montre très bien le côté mid-range des Warriors, et qui est sublimé par la capacité de Dory en ce moment, parce que ça enable beaucoup plus facilement des mains de 5 cartes via le troisième swing, ce que pourrait pas faire Kasai ou Olympia par exemple, qui ont d'autres avantages dont on parlera pas ici parce que c'est pas l'épisode. Mais du coup, comme en plus c'est la liste méta, on trouvait que c'était bien de commencer par celle-là. Et maintenant, PDPew principalement, je vais te laisser la parole, et tu vas pouvoir parler plus des autres façons de jouer Dory, qui sont peut-être un peu moins représentées dans la méta, mais qui n'en sont pas moins pertinentes, et qui n'en sont pas moins intéressantes, surtout. Et du coup, je ne sais pas avec laquelle tu veux commencer.
Je pense que je vais commencer par Dawnblade, mais il y a un truc qui est important avec la liste de Dory Hatchet, c'est qu'il est probable que ce soit la seule liste qui, actuellement, peut utiliser intégralement les Vaillant Dynamo, puisque en fait les Warriors ont deux chaussures de prédilection. Je parlerai des autres dans la deck tech, enfin pour le deck d'après, mais les Vaillant Dynamo, c'est une des principales raisons de jouer cette version du deck. En plus évidemment de sa polyvalence et des autres forces que Croissant a répété, mais un point de value quand il est sur de l'attaque, c'est un point de dégâts, c'est un breakpoint, c'est intéressant, mais sans plus. Quand ce point de value devient empêcher un on-hit en préservant une carte entière, devient éviter de mourir sur une attaque-réaction, devient un petit truc en plus que juste un point de vie qu'on arrive à préserver, du coup, ça devient un point qui en vaut d'autres, etc. etc. Oui. Et une des valeurs ajoutées de Vaillant Dynamo pour ce deck-là, en tout cas, puisqu'il veut quand même pas mal bloquer, et du coup, Vaillant Dynamo lui permet très facilement. Mais maintenant, on va parler de Dawnblade. Alors,
Dawnblade. Dory on Dawnblade, peut bloquer, mais on aime moins.
Surtout cette version, c'est un deck qui est beaucoup plus agressif. C'est-à-dire que ce qui est marrant, c'est que là, on va vous présenter trois listes de Dorinthea, et les trois balayent tout le spectre des decks un petit peu de Flesh and Blood. Vous avez un deck agressif, Dory Dawnblade, vous avez un deck midrange, Dory Hatchet, et vous avez un deck contrôle fatigue avec Dory Decimator. Et donc là, on est sur le deck aggro. Alors déjà, il faut expliquer l'arme qu'on utilise avec Dory Dawnblade. On utilise Dawnblade, du coup, l'arme signature de Dorinthea, qui dit, si elle touche, et que c'est la deuxième fois que vous touchez ce tour-ci, vous mettez un compteur plus 1 dessus, et au début de votre étape de fin, si vous n'avez pas touché, vous enlevez tous les marqueurs plus 1 qu'il y a dessus. Ça coûte une ressource pour attaquer à 3, et c'est une arme à deux mains. Ce qui est intéressant, et ce qui est assez évident avec Dawnblade, c'est qu'on va vouloir mettre un marqueur, le garder, puis augmenter le nombre de marqueurs, puis les garder, puis encore augmenter, et puis au bout d'un moment, on tape notre adversaire à 6 pour une ressource, et là, il commence à parler moldave, parce que ça veut dire qu'on a 3 cartes en main, qu'on a plein d'attaques-réactions, qu'il ne pourra jamais tout bloquer, et que c'est la giga sauce, et là, donc c'est le but du deck.
Et là, c'est finito.
Du coup, C'est une version de Dorinthea qui est très largement inspirée du travail d'un créateur de contenu que je vous recommande vivement si vous vous intéressez à Dorinthea, mais aux Warriors de manière générale. C'est Joshua Lowe, qui est un très très bon joueur, qui a fait top 8 au dernier Pro Tour, et qui a une chaîne YouTube qui s'appelle The Card Guys, dans lequel il met des grosses rediffusions de 3 heures de Dorinthea ou juste
ouais, genre, vraiment,
avec genre
vraiment, bon, il est en mode, on a fait un live, on a joué Warrior en live, c'est sur YouTube, voilà. On répond sur du chat, dédié, on vous parle de la liste, et genre vraiment c'est trop bien.
Il est dédié aux héros, dédié à la classe, et si vous cherchez du contenu anglophone de très bonne qualité sur le personnage, vous pouvez foncer, tout ce qu'il dit, c'est intéressant, genre il y a des choses à en tirer partout. Mais du coup, sa liste, elle a vocation à snowball. Et par snowball, j'entends mettre un compteur, garder le compteur, utiliser ce compteur pour en mettre d'autres, mais surtout utiliser ce compteur pour pousser l'adversaire à devoir mettre tellement de cartes pour défendre qu'il ne pourra plus vous attaquer, et que vous allez du coup, au fur et à mesure que les tours avancent, prendre un petit avantage, et puis un plus gros, et puis vous allez commencer à dévaluer les cartes de votre adversaire, parce qu'il vous laisse des mains entières, donc il ne peut pas bloquer correctement. Et du coup, il y a des cartes exceptionnelles comme Twinning Blade qui rentrent en jeu, et qui commencent à casser la tête de votre adversaire, etc. etc. Ce qui est très amusant avec ce deck, c'est qu'à mes yeux, il est rempli de power cards. Genre la majorité des cartes, à mes yeux, c'est des power cards, parce que quand vous ne bloquez pas avec, elles ont un impact qui va tout casser. Bon, il y a quelques cartes de consistance quand même, c'est-à-dire l'Ego Again essentiellement, donc les Spoils of War et les Warriors Valor, mais toutes les autres cartes, c'est que des cartes trop cool. On a plein d'attaques-réactions, parce que on a envie, en fait, d'avoir des attaques-réactions, de mettre la pression sur la capacité qu'aura notre adversaire à défendre correctement, et surtout, on a Singing Steel Blade. On en joue 3, parce qu'en fait, Singing Steel Blade, pour une ressource, ça devient n'importe quelle carte de notre deck, presque. Et donc, on peut jouer des petits one-off la majorité du temps, ça devient une 1 pour 4 en attaque-réaction, ce qui est très dur à prévoir pour un adversaire s'il veut bloquer correctement. Mais ça peut être soudainement une puncture qui le punit d'avoir bloqué avec un équipement. Ça peut être un gros route qui fait qu'il prend plein de dégâts d'un coup et qu'il a une main qui ne sert pas à grand-chose. Ça peut être plein de choses, et c'est ça qui est très fort avec Dorinthea, surtout cette version-là. C'est que vous allez dire à votre adversaire, je joue Warriors Valor et je t'attaque avec Dawnblade pour 5, on it go again, on it je peux attaquer de nouveau avec Dawnblade parce que Dorinthea. Tu fais quoi maintenant? J'ai 2 ressources et plein de cartes en main. Vas-y, panique. Voilà. C'est un peu ça le plan de jeu. C'est pour ça que vous avez beaucoup d'effets qui visent à bluffer votre adversaire, à le faire tomber dans des pièges. C'est une liste qui va récompenser le meilleur joueur à la table, parce que un adversaire qui est inexpérimenté contre Doridon Blade aura beaucoup de mal à bloquer correctement, puisque il ne sait pas exactement combien de points vous pouvez ajouter à une attaque, comment est-ce que vous allez pouvoir le faire, qu'est-ce que ça représente, qu'il vous reste une ressource, 2 ressources, etc. etc. Et de votre côté, vous allez pouvoir utiliser toutes les failles dans la défense que votre adversaire vous propose. Et c'est en ça que ça a vraiment ce côté escrime. Le fait que, vous regardez votre adversaire, vous êtes tous les deux en garde. Tous les deux, vous vous regardez, vous battez comme ça. Et en fait, il suffit d'une faille, d'une ouverture pour s'engouffrer dedans, mettre un marqueur sur l'épée. Et après, c'est la sauce. Parce qu'après, vous pouvez taper de nouveau. Et après, c'est encore pire de bloquer, etc. etc. Donc, les cartes clés de la liste, c'est Singing Steel Blade et Steel Blade Supremacy, dont j'ai déjà parlé, qui vont être vos power cards, qui vont être les cartes qui vous permettent généralement de mettre beaucoup de pression. C'est des cartes qui vont très bien aller avec l'autre power card du deck, qui vraiment est une de mes cartes préférées. C'est Twinning Blade. C'est une carte de Crucible of War qui dit pour 0 une attaque réaction qui bloque 3 et qui est jaune, et qui dit tout simplement vous pouvez attaquer une fois de plus avec l'épée ciblée ce tour-ci. Et alors ce qui est formidable, c'est qu'en fait c'est, au début on pourrait se dire ah mais c'est juste l'effet de Dorinthea, ça fait pas grand chose, mais en fait ce qui est formidable, c'est que vous avez un compteur sur votre Dawnblade, vous attaquez votre adversaire et vous avez plusieurs cartes en main, votre adversaire jouant intelligemment, il respecte votre attaque de Dawnblade. Donc il met des cartes pour bloquer votre attaque, et il en met même un petit peu plus. Comme ça, vous ne pouvez pas jouer votre attaque-réaction sur cette attaque-là, et du coup, il est sûr que il va tout bloquer. Et là, vous faites Twinning Blade. En fait, c'était pas cette attaque-là qu'il fallait bloquer.
C'était celle-là, vous...
Et là, votre adversaire, il panique, parce que ça veut dire qu'il faut qu'il mette de l'équipement, ou alors il faut qu'il ait une défense réaction, ou juste il prend des dégâts, et c'est la gigasauce. Et du coup, c'est toute la force de Twinning Blade, c'est quand vous avez Go Again sur votre attaque, de pouvoir faire plus, de pouvoir attaquer de nouveau, de pouvoir mettre la pression sur votre adversaire, etc. etc. Et du coup, une autre carte qui est très très bien avec Dorinta, et dont on a assez peu parlé, mais parce que c'est presque une spécialisation, mais c'est pas vraiment une spécialisation, parce qu'en fait elle est sur la carte, c'est Glean the Quicksilver, qui est une carte emblématique des Warriors. C'est une bleue qui bloque 3, qui coûte 0, qui donne Go Again à une attaque d'arme, et en plus, si votre adversaire a eu la mauvaise idée de bloquer, vous piochez une carte. Enfin, la carte fait tellement de trucs pour une bleue, c'est une bleue tellement pertinente dans tellement de plans de jeu, que bah, en fait, vous la jouez même quand votre héros c'est pas Dorinthea. Et du coup, ça me fait beaucoup rire, parce que il y a vraiment Dorinthea en gros sur l'image avec une épée qui fait de la lumière, et tu joues la carte dans Kasai. Et ça me fait trop rire. Mais ouais, voilà. Après... C'est une des cartes, à mes yeux, c'est une des cartes les plus fortes du pool Warrior, parce qu'elle elle fait tout ce que tu veux, en fait. Elle fait ce que les Warriors veulent faire, c'est-à-dire donner Go Again aux attaques d'armes quand c'est pertinent, piocher des cartes pour punir l'adversaire d'avoir bloqué, etc., etc. Et l'autre carte qui est beaucoup jouée dans cette liste, mais qui l'est beaucoup moins dans d'autres listes, c'est Iron Song Détermination, qui, pendant tout le tour, va donner plus 1 d'attaque et dominate à votre arme. Et cette carte fonctionne comme Steel Blade Supremacy, dont je vous ai parlé plus tôt dans la vidéo. C'est-à-dire que, à chaque fois que vous allez attaquer avec votre arme, vous allez multiplier l'effet de Iron Song Détermination. Et dominate sur une Dawnblade à 4, c'est infernal. Parce que votre adversaire, il va mettre une carte de sa main, et puis peut-être un équipement. Et en fait, si vous avez une attaque-réaction, il ne peut rien faire parce qu'il a déjà défendu avec une carte.
Ouais.
Donc, ça rend la vie très, très compliquée pour vos adversaires. Et donc, c'est une des cartes principales qui permet de snowball.
C'est ça. La carte est très forte quand l'adversaire veut un peu bloquer pour vous forcer à avoir les DR. Parce qu'il y a des match-up où il y a des decks qui sont très contents de genre bloquer 6 sur ta Dawnblade initiale et te forcer à avoir genre double DR et à dépenser beaucoup de ta main. Donc, à avoir gardé beaucoup de cartes, etc. Et Iron Song Détermination, dans ces matchs-là, c'est excellent parce que ça contre ça. Et ça deny cette value-là que l'adversaire voudrait prendre avec ses cartes. Dans les match-up qui comptaient pas bloquer de toute façon, c'est juste une carte qui pitch pas trop mal parce que c'est jaune et ou qui bloque. Puisque, comme toutes les cartes Warrior, ou presque, c'est un bloc 3. Et du coup, il y a toujours cet aspect. Qui pour moi est un peu la signature des... Alors, à l'exception un peu de Katsu, parce que Katsu, c'est un peu... C'était vraiment un aggro combo dès le premier set. Mais dans le premier set, tu vois, genre, beaucoup, beaucoup de cartes hors générique bloquaient 3, les cartes de gardien, beaucoup des cartes brutes, celles qui bloquaient pas 0 par design space, bloquaient 3 aussi. Et Warrior, c'est comme pour gardien, un truc qui s'est majoritairement maintenu, même si gardien, c'est un peu moins vrai sur la dernière extension. Et enfin, encore une fois, en fait, c'est ce qui permet de donner à cette classe une capacité à mid-range qui est presque sans égale grâce à cette force de bloc que tu retrouves sur chacune de tes cartes et qui font toute leur flexibilité qui est la base de Flesh and Blood, qui est que tes cartes peuvent pitcher, peuvent défendre et peuvent être jouées. Et vraiment, Warrior, c'est une des classes qui illustre le plus ça, je trouve. Et qui permet vraiment du coup de t'adapter et de value tes cartes au mieux selon la situation et qui récompense vraiment le fait d'être capable de connaître tes plans de jeu et de les appliquer.
Mmh. Du coup, on va pouvoir passer vite fait sur le sideboard de cette liste, puisque le principe du sideboard est de compléter les faiblesses du mainboard, en fait. Donc en fonction de ce que va jouer votre adversaire, de son envie de bloquer ou non, vous allez ajouter des CNC, des Agile Engagement, vous allez parfois rajouter des bleus, parce que c'est absolument pas anodin de jouer à plus de 60 cartes avec cette liste. Une de mes cartes préférées de Warrior, mais qui n'est pas une carte Warrior, c'est Nourishing Emptiness, C'est une générique qui est très très cool, puisqu'elle dit si vous n'avez pas d'attaque dans votre d'attaque action card dans votre cimetière, Nourishing Emptiness a Dominate, et si elle touche, vous gagnez un intellect supplémentaire. Et en fait, ce qui est formidable, c'est que les Warriors ne jouent pas d'attaque action card, enfin, n'ont pas besoin de jouer d'attaque action card pour menacer votre adversaire. Et en réalité, des decks Warriors sans attaque, c'est très commun. Et donc, Nourishing Emptiness en x1 dans le deck équivaut une fois par partie à dire. Bah, soit tu mets tout ton équipement, soit j'ai 5 cartes au prochain tour, et je peux bloquer comme jamais, ou alors tu pourras juste pas bloquer mes attaques. Et donc voilà, c'est très très cool. Comme Heavy Eaters a apporté pas mal de très bonnes cartes pour le deck, il y en a quelques-unes qui sont là dans le side, c'est les Take It on the Chin, qui permettent à la fois de défendre et de faire un agility, qui est très pertinent avec ce plan de jeu, et les Lead with Speed, qui permettent de maintenir la tempo et l'agressivité, pour conserver les compteurs et en mettre d'autres si besoin.
Ouais.
Voilà, alors il y a plein de tricks avec cette liste là. Il y a plein de petits détails, de petites subtilités, par exemple Chorus of Iron Song, qui est une autre spé de Dory que j'avais complètement oublié parce que bon, ouais, c'est une spé, on dort un peu, mais c'est pas grave. Qui est là en x1 parce que en attaque réaction contre Prism sur Singing Steel Blade, vous ravagez son board. Puisqu'il ne peut pas prévenir les dégâts de Dawnblade.
Et du coup, les wards vont tenter de s'activer. Vont...
C'est ça. Ça fait pif, paf,
pouf. Fail et tu peux péter 3 anges d'un coup s'il y en a 3. C'est une bonne carte de reset de borne.
Exactement. On a aussi une énergie potion. Au début, on se dit ouais, il y a une énergie potion. Mais en fait, avoir Gugen sur son épée, mais être complètement bloqué, ça arrive. Et dans ce cas-là, pouvoir drop une énergie potion derrière, en fait, c'est ne pas perdre son point d'action. Et surtout, une énergie potion, plus tard dans la partie, ça permet de rentabiliser les bots de Warrior, dont je n'ai pas encore parlé, qui s'appellent Refraction Bolters, puisque vous pouvez, avec une énergie potion, faire 2 attaques de Dawnblade. Et Refraction Bolters vous le permet, puisque ce sont des équipements qui bloquent 1 et qui ont Battle Ward, et qui disent... Quand votre attaque d'arme touche, vous pouvez détruire les Refraction Bolters pour que l'attaque acquiert Go Again. Et du coup, ce qui est très fort, c'est que même quand vous n'avez pas Go Again, théoriquement, vous avez Go Again. Et c'est d'ailleurs ce qui va pas mal jouer sur vos adversaires quand vous voudrez attaquer avec Dawnblade, quand vous n'avez rien joué avant. C'est qu'en fait, votre adversaire, il pourrait se dire « Je peux bloquer et du coup être sûr de ne rien prendre, mais je peux aussi me dire « Ah, il va pas craquer les Bolters ». Et du coup, bah, il n'aura pas Go Again, et du coup, il va juste me toucher une fois, etc. Et les Refraction Bolters, c'est un équipement avec lequel vous allez bloquer assez vite. Parce que bloquer un, ça permet d'empêcher un unhit, machin et tout. Mais que vous allez, à l'inverse, garder très, très longtemps. Parce que plus longtemps vous gardez les Bolters, plus longtemps votre attaque d'épée, votre attaque d'arme de manière générale, est pertinente et désagréable à bloquer. Vous faites réfléchir à votre adversaire et. C'est une des grosses forces du deck, c'est que toutes vos cartes valent 3 de manière générale. Vous allez très rarement faire un petit peu plus que 3 sur vos cartes. Mais vous faites des points, vous faites de la value, parce que votre adversaire, il doit respecter vos attaques, et donc il va très souvent surbloquer. Et du coup, quand votre adversaire a dépensé 2-3 cartes pour bloquer une petite attaque à 4, bah en fait, vous êtes gagnant, parce que vous lui avez enlevé beaucoup de points de value. Parce que tous ces points qu'il va avoir dépensés à défendre des points de dégâts qui n'existent pas, bah en fait, c'est des points de vie que vous allez gagner parce qu'il ne va pas vous attaquer avec.
C'est des cartes que vous avez conservées.
Des cartes que vous lui enlevez, mais que vous avez conservées dans votre deck, etc. etc. Et donc, il y a aussi une grosse partie du jeu avec Dawnblade qui tourne autour de ça. Et Refraction Bolters est intimement lié.
Et le truc, c'est que...
aussi, du coup, maintenant.
Ouais.
Et
le truc, c'est que lorsque, en fait, et là, du coup, vous pouvez vous dire, oui, mais un deck qui va juste aggro et qui, du coup, à qui je peux pas dévaluer défensivement ses cartes, etc., comment on fait, machin. En fait, un deck qui veut juste aggro et qui bloque pas, vous allez juste stacker 1, puis 2, puis 3 compteurs, avec des fois en plus des draws ou des trucs comme ça, selon vos effets. Et je vous assure que très vite, en fait, votre carte que vous jouez pour donner Go Again, elle vaut plus 3, parce qu'elle permet une autre attaque de Dawnblade s'il bloque pas. Maintenant, elle vaut 6. Parce qu'elle permet une autre attaque de Dawnblade s'il ne bloque pas, mais la Dawnblade attaque à 6. Et en fait, c'est là où en fait, vos cartes, comme explique très bien PewDiePie, elles vont virtuellement prendre en valeur si l'adversaire bloque trop, pour vous empêcher de hit et d'appliquer votre plan de jeu. S'il ne bloque pas assez, bah en fait, vos cartes elles vont toujours garder la même valeur, mais c'est l'épée enable par les cartes qui prend plus de valeur. Et du coup, virtuellement, vos cartes prennent plus de valeur aussi. Parce que si vos cartes permettent mieux, enfin, permettent toujours aussi bien d'enable l'épée quand l'épée attaque à 3, bah vos cartes elles valent environ 3 de value si elles ajoutent un hit. Mais quand l'épée elle attaque à 6, bah elles ajoutent environ 6 points de value. Et du coup, dans les deux cas, vous allez très vite pouvoir augmenter virtuellement la value de vos cartes, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Alors évidemment, il y a des contres à ça, et voilà. Et une des raisons pour lesquelles le deck est moins joué en ce moment, c'est un, que les gens qui veulent jouer compétitivement Warrior sont beaucoup sur Doria Chet, parce que le deck est plus consistant, à moins de match-up un peu doomed, on va dire, et plus even autour du field overall. Et la réalité, c'est aussi que Dawnblade a eu historiquement toujours un peu le problème d'avoir du mal contre les decks très défensifs.
Contre les défenses réactions, surtout. En fait,
alors, contre les défenses réactions, joue... mais ouais.
En fait, si votre adversaire joue au même rythme que vous, c'est-à-dire, il y a beaucoup une notion de temporalité avec les Dawnblade et les attaques réactions, c'est que quand vous jouez vos attaques réactions, si votre adversaire n'a pas de défense-réaction, il ne peut rien faire, en fait. Il est à votre merci, vous êtes trop rapide, il n'y peut rien. Mais si votre adversaire commence à avoir des défense-réactions et qu'il bloque intelligemment, qu'il surbloque toujours un petit peu plus, mais suffisamment, pas trop, mais juste ce qu'il faut, et que si ça dégénère, il a la défense-réaction pour contrecarrer votre agressivité, bah, en fait, vous vous retrouvez dans le pire spot, le spot le plus compliqué, en fait. Et c'est là que y a une différence entre... Les novices sur le deck et les joueurs très expérimentés, c'est comment justement jouer autour des défenses-réactions, jouer autour de cette défense bien ficelée que l'adversaire met en place et que vous allez devoir essayer de contourner. Et c'est là que le deck souffre un petit peu. Difficulté qu'a beaucoup moins Doria Chet, par exemple. Parce que Doria Chet n'a pas besoin de toucher, n'a pas fondamentalement besoin de toucher pour appliquer son plan de jeu. Il suffit juste d'attaquer...
Les DR vont souvent moins faire de value que ce qu'elle ferait contre Dawnblade. Les gens qui veulent bloquer beaucoup vont moins vous deny de value. Parce que des decks qui veulent bloquer beaucoup dans leur plan de jeu avec beaucoup de DR, etc., et attaquer de manière efficiente avec une carte en tapant avec Anotos ou avec Decimator ou ce genre de choses, c'est des decks qui... Alors, c'est dur parce que si tu overblocks tout le temps, non, mais c'est des decks qui peuvent potentiellement venir te fatiguer si tu dois commit trop souvent des cartes et qui te blow out avec des défenses réactions. Et du coup, ça peut être une difficulté. Pour moi, le deck, il a trois... c'est pas des défauts, mais il a trois scénarios compliqués qui sont, petit 1, les decks qui vont plus vite que toi dans le sens où on a dit que tes cartes, elles augmentent virtuellement de value si ton adversaire bloque pas, et c'est vrai. Et tu snowballs très vite. Et le deck snowball très fort, et les compteurs de Dawnblade font très vite beaucoup, beaucoup, beaucoup de maths. Mais la réalité, c'est qu'un deck qui est capable de te tuer en deux tours, parce que Katsu Combo, parce que Fire Tough War, parce que machin, en fait, tu n'as pas eu le temps de faire la race efficacement avec lui, parce que tu n'as pas eu le temps de faire plus de valeur offensive que lui, grâce à tes compteurs de Dawnblade, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de stacker. Alors évidemment, contre ces decks-là, tu as la possibilité de plus bloquer pour essayer de drag out un petit peu la game, mais ça peut être un premier problème de la liste. Quand il y a des decks aggro qui sont trop forts, trop oppressants, qui peuvent tuer trop vite, le deck peut avoir du mal parce que tu n'as pas le temps de générer assez de compteurs et assez de value mathématique avec tes compteurs pour gagner la course. Le deuxième truc, c'est comme tu l'as très bien expliqué, PDPU, les decks qui ont de manière un peu random, entre guillemets, alors c'est pas random évidemment, mais de manière un peu random, DDR. Genre par exemple, Faille, qui, et c'est pas random parce que c'est intelligent contre les Bravo, contre les Azalea, contre les Dorides, donc c'est pas du tout une erreur de la part des Faille ou quoi que ce soit, je suis pas du tout en train de dire ça, mais par exemple, Faille, qui est un deck très agressif, qui va de manière random à un moment, quand tu tentes de le blow out avec une AR, faire ah bah j'avais Flick Flag dans l'arsenal.
Ouais, ou Reinforce the Line.
Ou Reinforce the Line, ou ce genre de choses. Et du coup, ce moment-là, enfin ces moments-là, c'est des moments où tu vas te faire un peu blow-out par une DR, mais tu peux pas vraiment genre le planifier parce que t'as pas le temps de pitch stack, t'as pas le temps d'attendre des cartes parce que t'es dans un match-up qui est agressif. Et le troisième chose, c'est les listes ultra-fatigues, il y en a beaucoup moins en ce moment, mais les listes ultra-fatigues avec beaucoup de DR, genre les Bravo avec 9 Stones, les Oldim à l'époque, ce genre de choses, où là, c'est extrêmement dur de passer, voire impossible, et où en fait, tu perds petit à petit tes cartes, parce qu'à chaque fois que tu mets une AR, il a une DR, et c'est infernal, et tu n'arrives pas, et tu n'arrives pas, et tu n'arrives pas. Et c'est un peu les trois problèmes de la liste. Vas-y.
Dans ce match-up-là, la carte la plus importante, c'est Twinning Blade. Oui. Parce que c'est la carte qui te permet de jouer autour du fait que ton adversaire joue autour de ton plan de jeu. Après, ça fait un jeu du pain de toute manière. Avec les Warriors, ça fait toujours un petit peu ça.
Bien sûr. Et
autre élément très important que tu n'as pas mentionné, il y a quelque chose qui change pas mal le match-up pour les Warriors. C'est à quel point l'adversaire peut bloquer avec son équipement et en fait les valeurs défensives de manière générale de son équipement. Par exemple, un équipement qui me fait avoir un petit peu des cauchemars, c'est Carrion Husk. Parce que l'adversaire peut, du jour au lendemain, comme ça, là, il se dit, cette attaque-là, j'ai envie de la bloquer. Et pouf,
il l'a bloqué.
Tu déclenches pas la reprise.
Ouais, cet équipement.
Et t'es en mode.
S'il a eu envie de la bloquer, cette attaque-là, il l'a bloqué. Et du coup, donc, en fait, la liste a des manières d'être surprenante. Enfin, la liste, pas forcément cette liste-là spécifiquement, mais les listes de Dunblade. Les listes de Dunblade agressives de manière générale ont cette capacité avec des réactions à tourner autour de certains contextes et de certains éléments, de surprendre, de piéger l'adversaire. Mais la réalité, c'est qu'il y a des contextes qui sont plus durs que d'autres. Et du coup, c'est un deck qui a tendance à, même s'il est assez consistant et d'un power level qui est bon de mon point de vue, c'est un deck qui a quand même besoin un petit peu de target des méta. Pas dans le sens où c'est un deck qui est polarisé nécessairement, parce qu'il n'est pas, par rapport à des illusionnistes ou des canaux ou ce genre de choses, c'est pas un deck qui est ultra polarisé du tout. Mais c'est un deck qui va avoir beaucoup plus de facilité à appliquer son plan de jeu, à snowball dessus, à piéger l'adversaire et à le punir dans certaines méta plus que d'autres. Dans les méta où c'était genre Oldim, Lexi et Islander qui se battaient en duel, ce deck-là, il avait très peu le droit d'exister. Mmh. Maintenant, dans des méta où c'est genre Kayo, Dori Hatchet et Victor, mais qui a pas tant de DR que ça, qui a beaucoup de blocs, mais qui a pas tant de DR que ça, le deck, il a déjà plus le droit d'exister. C'est pas forcément une méta qui est genre ultra favorable nécessairement, mais c'est pas des match-ups qui t'empêchent autant de les punir ou qui t'empêchent autant d'appliquer ton plan de jeu. Et c'est des match-ups où t'as plus de place, en fait, pour t'exprimer et pour faire ce que tu veux faire. Et du coup, c'est des méta dans lesquelles le deck va plus avoir le droit d'exister. Et ce qui est bien, du coup, c'est que c'est vraiment... ça montre la flexibilité de Dorinthea et aussi du pool warrior, puisque tu l'as très bien dit, Pidipiu, même s'il y a des cartes qu'on va retrouver à chaque fois. Blade Flurry, par exemple, c'est une carte qu'on va avoir tendance à beaucoup voir dans les listes en ce moment, parce que la carte est juste d'un très bon rate. Les Spoils of War, les Glint, c'est des cartes qu'on va tendance à avoir souvent dans les listes parce que c'est des cartes qui enable très bien tes plans de jeu et qui font très bien ce que tu leur demandes. Maintenant, ce qui va changer, c'est les cartes qui disent Target Sword, les cartes qui disent Target Axe, les cartes qui sont spécifiques aux armes à une main, spécifiques aux armes à deux mains, etc. Et c'est ces petites cartes-là qui vont changer un peu et qui vont s'adapter à ton arme. Et selon l'arme que tu vas prendre, tu vas mettre des cartes un petit peu différentes et jouer un peu différemment ton plan de jeu et tes match-up. Mais, en fait, comme toutes les cartes, comme on l'a dit, bloquent à 3, et que toutes les cartes ont une certaine flexibilité, en réalité, même une liste Dunblade comme ça, supposée agressive, peut très bien bloquer 12 par tour, s'il y a besoin. Et en fait, tu te retrouves du coup avec des decks qui ont à la fois une forte identité grâce à leur arme, et ça, c'est un des points forts de Warrior, au-delà de la puissance en tant que telle, mais... C'est un des trucs qui fait que les gens aiment beaucoup cette classe. Quand tu aimes bien Warrior, c'est parce que tu aimes beaucoup choisir ton arme, choisir ton héros, bien combiner les deux, trouver les meilleures combinaisons, les meilleures cartes qui vont avec pour le plan de jeu et tout ça. Et ça, c'est très sympa. Et pour le coup, ça change de pas mal de decks et de la plupart des autres classes. Mais c'est aussi des decks qui, peu importe ce que tu choisis comme arme initialement, ont beaucoup de capacités à adapter leur plan de jeu pendant la game et à adapter la façon dont ils utilisent leurs cartes selon ce que la partie demande. Et Dorinthea, comme on l'a dit pour Hatchet, c'est encore plus vrai parce que c'est celle qui enable le mieux, de mon point de vue, un plan de jeu plus agressif et avec une meilleure valeur mathématique lorsqu'on lui laisse des mains de 5 cartes ou de 4 cartes, grâce à ce deuxième swing qui peut être enable, ou ce troisième si c'est des hatchets, mais grâce à cette menace de mon arme à go again, si tu la laisses toucher, c'est pas 3 que t'as pris, c'est 6. Donc mets une carte. T'as mis une carte, bah t'es puni par une réaction parce que mon deck en a 20. Ou 10 selon les listes, ou 30. Ou... Mais, et tout ce truc-là, c'est enable grâce à ce que tu disais au tout début de l'épisode, enfin de la partie sur le focus. Le texte de Dory donne un on-hit à votre attaque d'arme. Et ça, ce qui n'est pas le cas des autres warriors. Et c'est dans une classe qui joue principalement sur son arme et qui a principalement des cartes qui, alors évidemment synergisées avec l'arme, mais qui enable la force de l'arme ou des armes que vous avez choisies, c'est extrêmement fort de pouvoir profiter d'une deuxième ou troisième attaque. Parce que, comme on l'a dit, Dunblade qui réattaque sur un tour de Steelblade Supremacy, votre Steelblade Supremacy, il passe de plus 2, draw une carte, à plus 4, draw 2 cartes. Donc vous passez d'une carte qui fait du 1 pour 5 à 1 pour 10. Broken. Enfin, genre, crack broken. Et du coup, en fait, tous ces trucs-là font que lorsque vous prenez en compte la capa de Dory, vous ajoutez énormément de value théorique à vos cartes selon les situations dans lesquelles vous les jouez, et vous demandez à votre adversaire d'y répondre correctement, et s'il n'y répond pas correctement, vous le punissez énormément. Ce qui est moins le cas avec d'autres héros, parce que, imaginons Olympia qui joue avec Dunblade, par exemple, Olympia qui joue avec Dunblade, si vous vous faites blowout par une réaction, oh, j'ai attaqué à 6 avec Go Again. Oh, j'ai bloqué à 6. Ok, j'ai donné plus 3. Bah là où dans Dory, le plus 3, en fait, il vaut 6, parce que vous réattaquez avec Dunblade derrière, bah là, dans Olympia, il vaut que 3. Mm-hmm. Bah du coup, c'est moins ouf. Par contre, Olympia va avoir plein d'autres manières de mieux rentabiliser certaines cartes et certaines situations, dont on parlera pas ici, évidemment, mais peut-être dans un autre épisode. Mais du coup, c'est pour montrer à quel point... le texte de Dory est super simple et super ancien, et pourtant il est si efficace.
Oui.
Et vraiment, ça permet, peu importe l'arme que tu joues, de forcer des situations désagréables pour l'adversaire et de forcer une augmentation de ta valeur mathématique, ce qui est hyper important dans une classe qui, comme tu l'as très bien dit, Hugo, a majoritairement des cartes qui valent 3. Peu importe comment tu les utilises. Et c'est les situations que tu vas créer qui vont faire que tes cartes vont valoir plus.
Et du coup, on va pouvoir passer à la dernière version du héros, qui est une version du héros qui oublie la majeure partie du héros, en fait, puisque c'est Dory Decimator. Alors, si vous trouviez que les gardiens bloquaient bien, ben, je trouve que je bloque mieux.
Ben, je suis d'accord.
Mais on va revenir. Alors... Déjà, il y a un truc qui est important, dont on a un petit peu parlé, mais sur lequel je vais revenir. Les équipements de Warrior bloquent extrêmement bien. Les équipements de classe, que ce soit Grains of Bloodspill, Refraction Bolters, les gants dont on n'a pas parlé, mais qui sont là dans toutes les listes, en fait, Brayforge Brassers, bloquent et restent en jeu, souvent, ou alors ont des effets pertinents au fur et à mesure que la partie va avancer. De manière générale, les Warriors aiment bien leur équipement parce que c'est ce qui fait un peu le sel de la classe. Donc c'est évidemment leur arme au départ, mais tout ce qu'il y a autour est aussi important. Et donc là, l'arme qu'utilise Dory Decimator, c'est la Decimator Great Axe, qui est une hache de... c'est quelle dynastie ? C'est Dusk Till Dawn, je crois ?
Je crois que c'est oui.
Qui dit, une fois par tour, vous pouvez payer 3 ressources pour attaquer avec, elle attaque à 4, elle est à 2 mains, et elle dit, et c'est ça le plus important, la première fois qu'une attaque de la hache est défendue par une carte non équipement, vous, chaque tour, vous divisez la défense d'une carte qui défend par 2, arrondie ou supérieure. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la majorité du temps, si votre adversaire bloque avec une carte qui bloque 3, bah vous dites en fait elle bloque 2. Du coup, vous avez gagné un point, vous lui faites un point de dégâts, c'est super. Bloquer complètement une attaque de Decimator, c'est soit deux cartes de sa main, qui font un total de 5 du coup, soit une carte de sa main et un bloc d'équipement. Mais même ça, ça suffit pas du coup, puisque... Bah, en fait,
si l'équipement bloque à 2.
Ouais, voilà. Si l'équipement bloque à 2, vous pouvez le faire généralement qu'une seule fois, et vous allez bloquer intégralement. Mais par exemple, si on pense aux vaillants de Dynamo, qui sont censés faire justement ce petit point de value défensive que vous allez gratter au fur et à mesure que la partie avance, bah contre Decimator, ça fait pas grand-chose, parce qu'en fait, vous allez mettre une carte de votre main qui va bloquer 2, plus les dynamos, et en fait, vous avez quand même pris 1 dans la manœuvre, et donc vous perdez quand même des points de vie, alors qu'au départ, vous ne vouliez pas en perdre. Mmh. Du coup, tout le deck est tourné autour de l'idée que vous allez bloquer d'abord, c'est-à-dire qu'il y a trois phrases très importantes avec le deck, c'est « ne meurs pas », puis « préserve tous tes points de vie, puis aucune carte de ton deck n'a la moindre valeur offensive. » Alors en vrai, c'est pas complètement vrai, mais c'est ce qu'il faut se dire en permanence quand on joue le deck, puisqu'on veut toujours bloquer. On veut bloquer le plus possible, on veut bloquer ouais. tout le temps, sauf dans certains match-up qui sont très précis et particuliers, où en fait, bloquer ne sert à rien. Donc dans ces cas-là, il faut un peu attaquer, mais c'est assez rare. Et donc, tout votre deck bloque 3, sauf quelques cartes qui bloquent 2, mais en fait elles bloquent 3, voire plus. Tout votre deck a vocation à ne servir à rien, mais en fait servir à quelque chose. Et c'est ce qui est trop bien avec cette version du deck, c'est que aucune carte du deck n'a de valeur, et en même temps, quand vous avez besoin de trouver de la valeur dans ces cartes, bah, en fait, vous pouvez quand même la trouver. Le meilleur exemple, par exemple, c'est E-Strike. On a déjà expliqué pourquoi est-ce que Unlighted Strike, c'est une carte formidable, etc. etc. Mais dans cette version du deck, la majorité du temps, elle bloque 3. Et quand vous avez besoin d'agresser votre adversaire, bah, soudainement, ça devient une 5 go again. Ou une 2 cartes pour 7. Et du coup, vous cachez une attaque réaction en dessous de votre deck parce que vous ne révélez pas ce que vous mettez en dessous, etc. etc. Et tout le deck tourne autour de cette idée. Justement, que vos cartes bloquent 3 d'abord. Et qu'ensuite, elles peuvent faire des choses. Donc, vous avez pas mal de sources de Goyen, mais qui n'ont pas vocation à être jouées. Vous avez des Warriors Veiler rouges, mais le plus important avec la carte, c'est d'abord qu'elle va donner plus 3 à votre attaque de hache, et un Onit. Et c'est ça qui est cool avec le deck. C'est que, par exemple, un pattern de jeu qui est pertinent quand votre adversaire a refusé de vous attaquer, ou qui vous a laissé quelques cartes en main, c'est d'avoir gardé 2 bleus et une Warriors Veiler rouge, et de dire, et d'avoir la tunique aussi, parce que du coup dans cette version-là, on joue la tunique et pas un autre torse, et de pitcher les 2 bleus pour jouer la Warriors Veiler et attaquer avec votre hache, et dire à votre adversaire, regarde, il me reste 2 ressources flottantes et une tunique, si tu ne bloques pas cette attaque de hache, je peux t'attaquer de nouveau avec ma hache, parce que l'effet de Dorinthea. Mais si tu bloques la hache, tu vas mettre 3 cartes devant, parce qu'en fait, mon attaque à 7, pour être bloqué correctement, il faut que tu mettes 3 cartes, en gros. Ou 2 cartes et un équipement. Ou, enfin, en gros, il faut qu'il mette plein de trucs. Et du coup, vous mettez votre adversaire dans une situation où il ne comptait pas bloquer, mais il est obligé de bloquer, parce que c'est une des forces du deck, de cette version-là, c'est que, en fait, le deck tape fort. C'est-à-dire que quand vous avez envie de taper votre adversaire, vous allez y arriver, parce que vous avez beaucoup de bleus pour attaquer plusieurs fois avec votre hache, vous avez pas mal de sources de go again, que ce soit les Warriors Veilor, les Spoils of War, mais aussi pas mal des bleus qui sont justement là pour donner go again, et sinon vous avez les classiques, Fiendal Fighting Spirit, Ranging Onslaught, 3 pour 7. Vous envoyez des patates. Mmh. C'est ça qui est très cool. Donc ça c'est l'aspect offensif, c'est l'aspect qu'est-ce que vous faites pendant votre tour avec les cartes que vous avez, mais le plus important, c'est qu'est-ce que vous faites pendant le tour de votre adversaire. Puisque pendant le tour de votre adversaire, vous voulez bloquer le plus possible. Donc vous avez les classiques, Fate for Sin, Sink Below, les Sigil of Solace, parce que vous bloquez, mais en fait vous bloquez pas. Ça vous permet de regagner des points de vie quand votre adversaire essaie de vous gratter à coups de petits points par petits points. Et surtout, la carte la plus importante du deck, et une des raisons pour laquelle le deck est trop marrant à jouer en ce moment, c'est Steelblade Shunt, qu'on joue en 9 exemplaires, parce que c'est la meilleure carte du deck. La version rouge bloque à 6 pour une ressource, et si vous bloquez une attaque d'arme, inflige 1 point de dégâts à votre adversaire. Et surtout, ce qui est super, c'est que si vous avez une tunique de up, bah du coup, vous faites un bloc 6 avec une carte. Et ça fait beaucoup de points. Et si vous faites 1 point de dégâts à votre adversaire, ça fait 1 pour 7, et alors là, c'est la fête. Et on vous a dit un petit peu plus tôt que Dory Hatchet, c'était un très 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 bon deck. De manière générale, en ce moment, les héros aiment bien attaquer avec leurs armes. Que ce soit Kayo qui attaque avec son Mandible Claw, que ce soit Victor qui tape pas mal avec son marteau, Dori Hatchet qui attaque beaucoup avec ses armes. Avec Steelblade Shunt, si votre adversaire choisit de vous attaquer avec ses armes, il commence la partie à 31. Et du coup, ça devient vachement plus facile de le tuer. Mais ça fait surtout qu'au bout d'un moment, il est obligé de respecter votre hache parce que théoriquement, il est mort s'il ne respecte pas vos Steelblade Shunt. Donc, vous donnez un on-hit à vos attaques dash qui en avaient un petit peu, mais la majorité du temps, en réalité, n'en ont pas. Et du coup, vous rendez infernal le fait que vous baissez la défense des attaques de votre des cartes de votre adversaire, etc. etc. Mais donc, Steelblade Shunt, c'est la raison pour laquelle on joue Tunic, et c'est la principale raison pour laquelle vous voudriez jouer ce deck, en vrai, puisque si Steelblade Shunt ne sert à rien dans une méta, je pense que le deck n'est pas très bon, ou ça veut dire qu'il faut qu'il soit changé fondamentalement pour ne plus jouer la Tunic, etc. Mm. Mais en ce moment, comme Steelblade Shunt, c'est une très bonne carte, bah, du coup, ça vaut le coup de jouer le personnage, de cette manière-là, en tout cas. Vous avez aussi, en défense-réaction, Oasis Respite, qui est là pour les wizards, mais en fait les wizards on s'en fout, je vais vous expliquer pourquoi, mais qui est surtout là pour les attaques qui auraient dominate et que vous ne pourriez pas bloquer correctement avec plein de cartes de votre main. Bah, en fait vous pouvez utiliser Oasis Respite pour contourner le fait qu'elles aient dominate. Vous pouvez aussi parfois gagner des points de vie. Earth of Fiendal, Oasis Respite et Fiendal Fighting Spirit jouent beaucoup avec le fait que vous soyez toujours un point de vie en dessous de votre adversaire mais jamais vraiment au-dessus de lui. De toute façon, si vous avez plus de points de vie que votre adversaire, c'est pour le moment que vous êtes déjà en train de gagner en réalité. Ouais. Et tant que vous arrivez à gagner, tant que vous arrivez à garder justement ce petit truc que font très très bien les Warriors d'ailleurs, parce que les Warriors bloquent très bien et de manière très flexible, garder toujours ce petit point de vie en dessous de votre adversaire donne beaucoup de value à des cartes comme Oasis Respite qui du coup deviennent 1 pour 5, le Heart of Fiendal qui devient une ressource qui fait 4 de value. Fiendal Fighting Spirit qui devient une très bonne attaque, parce que ça devient une 3 pour 8, etc. etc. Et c'est pour ça qu'il y a des Oasis Respite, pour éviter de mourir sur un random dominate. Le deck, en ce moment, joue des cartes tech, qui sont là pour cibler les meilleurs decks du field. Surtout parce que cette version-là du deck est une version réactive. Et comme on l'a déjà dit, une version réactive est pertinente lorsqu'elle a choisi les bonnes cartes dans son deck pour cibler les match-ups qui la mettent en difficulté, ou alors les match-ups précis d'une méta qu'il veut cibler. Et les deux cartes qui sont dans ce spot-là, à mes yeux, c'est les Hold the Line et les Ripple Away, qui sont là pour cibler les Cast Bones et les Codex of Frailty pour Ripple Away, et les Blood Rage Below et les Heart of War pour Hold the Line, et qui sont là en fait pour bloquer mieux, en fait faire trop de défense pour que l'adversaire puisse vous mettre en danger avec ses power cards, en fait annuler les power cards adverses, puisque c'est ce qui va vous mettre en difficulté en fait, les power cards de votre adversaire, puisque ça va être les seuls moments où il va faire plus de points que ce que votre main est capable de défendre, et dans ces cas là il vous faut des outils, donc les Hold the Line bloc 5 si votre adversaire a pioché 2 cartes. Vous avez aussi Balance of Justice, on a déjà dit que c'était une très 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 bonne carte. Bah dans cette version du deck, elle est encore meilleure. Parce que quand votre adversaire il dit « Je vais t'attaquer avec plein d'attaques et elles vont taper très fort », toi tu dis « D'accord, je gagne 3 points de vie. » Hop là. Donc c'est super. Et puis sinon, parfois le deck tue. Donc vous avez des overpower qui sont là pour faire peur à votre adversaire. Les overpower, de manière générale, sont les seules cartes que vous allez préférer pitcher au lieu de bloquer avec, puisque ce sont des cartes qui deviennent extrêmement pertinentes à la fin de la partie, quand l'adversaire a plus beaucoup de points de vie, plus beaucoup de cartes dans son deck, et qu'en fait vous êtes en train de le fatiguer. Ce qui est super avec ce deck aussi, c'est que vous n'avez pas de side, dans le sens où vous allez jouer les 73 cartes du deck dans quasiment tous les match-up. Il y a un seul match-up où vous enlevez des cartes de votre deck. Dans tous les autres, vous les jouez toutes. Et qu'est-ce que c'est bien de s'installer à une table, de montrer son héros et de ne pas s'aider. Vraiment, moi quand je m'installe à la table, j'ouvre ma deck box, je prends mon deck, je regarde les deux équipements que j'ai en rab et je fais « Oh, j'en ai pas besoin !» et je le mélange. Puis mon adversaire, il réfléchit, il sort une feuille, il est en mode « Ah, faut que j'enlève des cartes, je sais pas qu'est-ce qu'il joue, est-ce qu'il joue ?»
Il sort sa petite fiche et tout, là.
Golden Blade et tout. Moi, je suis en mode...
Et là, il sort sa petite fiche et il est
ouais, moi je suis en mode ouais, non, mais je m'en fous, moi. Je
joue sur une carte, hein. M'en fous pas, lui.
c'est ton problème.
Bien,
c'est ça qui est un peu marrant. C'est ça qui est un peu marrant avec ce deck, c'est que tous les efforts qui doivent être fournis par un des deux joueurs pour gagner la partie sont chez votre adversaire. Puisque vous, le principal effort que vous avez à fournir, c'est « meurs pas ». Voilà, c'est tout. Parce qu'en fait, si vous n'êtes pas mort, vous avez gagné. Puisque vous avez fatigué votre adversaire, ou alors qu'il n'est plus capable de vraiment vous tuer et qu'il va abandonner, ou alors que vous le tuez à coup de hache parce qu'en fait, il ne peut plus bloquer, parce qu'en fait, s'il bloque, il ne peut plus vous tuer, etc., etc. Et en fait, la majorité des games avec ce deck se jouent généralement au milieu de la partie quand votre adversaire a passé ses power cards. Et c'est pour ça qu'il est très important quand vous jouez ce deck de savoir ce que fait exactement le deck de votre adversaire pour justement pouvoir cibler ses power cards, conserver des défenses réactions quand votre adversaire va les jouer justement. Et en fait, jouer autour de ses power cards, puisque quand votre adversaire n'a plus de power cards, il ne peut plus vous tuer. Bon, sauf cas particulier, bien sûr. Faut pas prendre ça comme un absolu, mais c'est l'idée, en gros. Et du coup, il faut juste jouer autour de ses power cards. Donc, par exemple, si vous savez que votre adversaire, il a joué un Blood Rage Below et qu'il lui en reste deux, bah, vous n'allez pas craquer la balance, par exemple, si votre main vous permet de défendre correctement ce Blood Rush. Parce que vous aurez peut-être besoin de la balance pour le Blood Rush d'après, ou pour le dernier. C'est aussi savoir quand mettre telle défense-réaction en arsenal et pas une autre, parce que vous savez que vous allez bloquer une très grosse attaque, ou alors absorber plein de petits points de dégâts avec Hold the Line sur un tour Art of War, etc. etc. Le deck joue quand même en side Dawnblade, parce que il y a certains match-up où ça ne sert à rien de jouer Decimator, puisque Decimator menace moins votre adversaire que Dawnblade. En fait, il y a certains match-up où l'adversaire est en mode « j'ai 40 points de vie, je vais prendre quelques coups de hache, je vais pas mourir, et je vais utiliser justement ces points de vie pour setup un tour tellement gros que mon adversaire s'en remettra pas. » Et en fait, Dawnblade est là pour titiller un petit peu votre adversaire, le forcer à mettre quelques cartes par-ci, quelques cartes par-là, et à moins vous gratter, parce que du coup, soudainement, vous avez une arme qui a un vrai on-hit, puisque d'un coup, les Warriors Valor deviennent des super cartes, les Spoils of War deviennent super, et vous dites à votre adversaire, il va falloir mettre des cartes devant mon épée, parce que sinon, je vais juste te snowball, en fait, et tu vas finir par mourir. Et donc ça, c'est le plan de secours, qui est là pour les decks combo, donc les mécanos comme Teclovocen, Max, qui est là pour les decks qui bloquent très mal, comme Azalea, Katsu, Fai, et qui est là contre Kano. Kano qui est une des bonnes raisons de ne pas jouer ce deck. Vous savez qu'il y a des Kano près de chez vous, ou dans les armories auxquelles vous jouez, ne jouez pas ce deck. Parce que votre match-up est abyssal contre un bon Kano. Alors,
t'es en train de dire que la personne qui t'a joué en armorie, c'était pas un bon Kano? T'es en train de trash les gens de la commu là?
Pas du tout. Mon adversaire a admis qu'il fallait qu'il pitch stack. Il a échoué son pitch stacking, du coup il a perdu. Mais je considère que les Kano que j'affronte en tournoi sont des bons Kano qui savent pitch stacker et qui savent faire une stack parfaite que je ne peux pas contrecarrer avec des Oasis Respite et AB3. Donc le deck a AB1 pour les Runeblade. Et puis, on serre les dents contre les canaux et il faut taper vite et taper fort. Et si ça passe pas, dommage. Donc, contre canaux, vous enlevez toutes les défenses réactions, vous gardez que des bleus, de quoi donner Go Again à Dawnblade et vous tapez. Vous tapez le plus vite et le plus fort possible parce qu'il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir tuer canaux. Parce que si la partie dure trop longtemps, c'est perdu.
Logique.
Voilà pour le deck. C'est le deck avec lequel, en ce moment, je fais des scores... honorable. Donc en ce moment, le deck est très bien placé parce qu'en fait, Dori Hatchet est en difficulté contre ce genre de stratégie. Victor prend des dégâts au fur et à mesure que la partie avance parce qu'il ne peut pas bloquer correctement Decimator. Kayo, vous le ciblez très précisément avec les Ripple Away, les Hold the Line et la Balance of Justice. Donc pareil, vous allez les fatiguer en fait. Et puis, si votre méta ne contient pas de prismes, de canaux, ou de decks un petit peu bizarres comme Max et Teclovocen, bah vous avez probablement là un très très bon deck à jouer à vos armories. Et qui en plus, et ça c'est un truc non négligeable, va vous apprendre à bloquer. Et mine de rien, savoir bloquer à Flesh and Blood, très très bien. Genre, Knight s'en est rendu compte quand il est passé de faille, on bloque jamais, à Katsu, où parfois on bloque. C'est que, en fait, bloquer c'est fort, bloquer ça peut être important, et il faut savoir comment bloquer. Quelle attaque on bloque, combien de cartes on met, quelle carte on met, dans quel ordre, machin et tout. Et donc ce deck va vous apprendre à bloquer, si vous voulez apprendre ce truc-là.
Globalement, je pense que pour faire un petit récapitulatif, pour les gens qui... Parce qu'en général, les focus, c'est soit pour les gens qui jouent déjà des héros, soit des gens qui s'intéressent à ce héros et qui hésitent à le prendre en main. Là, du coup, l'avantage de Dorinthea et de Warrior de manière plus générale en ce moment, parce que, honnêtement, alors à part Dawnblade qui est très spécifique à Dorinthea parce que l'arme va avec la capacité, des listes plus agressives, même avec des doubles armes, il y en a chez Kasai. Des listes Rompige Decimator, il y en a chez Olympia aussi. Des listes Hatchet, les trois Warriors peuvent les jouer, même si encore une fois, Dorinthea est probablement la meilleure pour ça. Mais du coup, il n'y a pas... Enfin, la classe de manière générale est dans un spot où on peut jouer pas mal de choses dedans, donc c'est un bon moment pour s'y intéresser parce qu'il y a une grande variété de choses que vous pouvez faire dedans, contrairement par exemple à Ninja, où c'est plus dur de s'éloigner de la partie aggro ou combo de la classe, ou encore chez Gardien, où c'est dur de s'éloigner de la partie mid-range défensive de la classe. Là, vous avez vraiment un truc qui a une grande range de façons d'être joué et de flexibilité et du coup d'originalité d'une certaine manière. Après, pourquoi jouer Dorinthea plus qu'un autre potentiellement? Alors pour moi, il y a en gros il y a deux raisons. La première, c'est si vous voulez jouer spécifiquement Dawnblade, qui est, je pense, si vous avez envie de vous intéresser à Warrior et d'avoir un deck qui est agressif mais avec des cartes qui bloquent 3, d'avoir un deck qui peut snowball très vite, que vous aimez bien jouer sur votre arme plutôt qu'avec des attack action, que vous aimez bien cet aspect-là de la classe, mais que vous êtes plutôt un joueur aggro, Dorinthea va être le meilleur perso des Warriors pour vous grâce à Dawnblade. Alors, encore une fois, parmi les persos Warriors, j'exclus volontairement Bolt-In parce qu'il est sur un prisme très différent de tout ce dont on a parlé sur
cette vidéo. Il est light.
Il est light et ça change tout et ça change... voilà. Mais Bolt-In, si vous voulez jouer Warrior agressif, Bolt-In, c'est pas un mauvais deck non plus du tout. Mais là, si vous voulez jouer vraiment par rapport à votre arme et dans cette identité de la classe Warrior, cette identité forte autour de l'arme que vous choisissez, le meilleur deck pour jouer agressif actuellement, c'est Dorinthea Dawnblade, parmi les options de la classe. Si vous voulez jouer la liste la plus compétitive possible et que vous voulez tryhard et jouer pour perfer, pour optimiser, etc., c'est Dori Hatchet. Pourquoi ? Parce que Hatchet, c'est probablement la meilleure forme d'arme actuellement, la meilleure combinaison compétitivement parlant pour les Warriors. Parce que, un, c'est celle qui est le moins dépendante de la méta. Parce que, deux, c'est celle qui est la meilleure mathématiquement dans sa régularité, contrairement au Sword en One End, donc Sintari Saber, Hot Streak, etc., qui sont plus dépendantes de Power Card ou de Synergie, là où les Hatchets sont juste fortes mathématiquement parce que c'est 2 et 3 au lieu de 2 et 2 tous les tours. Et parce que, comme on l'a expliqué longuement sur la première liste, Dori permet d'utiliser exponentiellement votre main et de bien plus profiter ou bien plus facilement d'une main de 4 ou 5 cartes que d'autres decks. Ainsi que de doublons de Go Again, ce que les autres Warriors vont plus avoir de mal à utiliser puisqu'ils n'auront pas de troisième swing. Donc Dori Hatchet, c'est vraiment, pour ces raisons-là, la meilleure liste compétitive de Warriors à l'heure actuelle. En tout cas, quand vous ne connaissez pas trop le field. Parce que si vous connaissez bien le field, il y a peut-être des choses qui techées sont un peu mieux, genre Decimator, mais dans un field un peu inconnu et un peu genre, il y a des Caillots, il y a des Warriors, il y a des Victors, Hatchet a l'air d'être la meilleure option, et Dorinthea est le meilleur perso pour les Hatchet. Et du coup, pour moi, ça, c'est les deux grosses raisons de jouer Dorinthea. Alors évidemment, si vous aimez un deck plus défensif mais que vous aimez bien l'aspect arme, l'aspect grosse hache et tout, vous pouvez aussi jouer Dorinthea Decimator plutôt que de jouer un gardien par exemple ou que de jouer Teclovoson ou que de jouer Dash Pistol parce que vous êtes moins attiré par les classes mécano ou ce genre de choses. Mais je ne l'ai pas forcément cité dans les raisons de jouer Dorinthea parce que Dorinthea sera bientôt, et je n'en dirai pas plus parce que spoiler alerte, Dorinthea sera bientôt probablement plus la meilleure représentante des decks Decimator. Donc, si vous voulez jouer Decimator, ce ne sera plus nécessairement, je ne dis pas que ce sera Balgam, mais ce sera plus nécessairement Dorinthea votre meilleure option. Maintenant,
j'y réfléchis.
Attends, je suis juste là-dessus et je te laisse Hugo. Mais maintenant, le fait que vous puissiez quand même switcher Dawnblade pour être un peu plus agressif dans certains match-up, et le fait que de temps en temps, vous avez la menace de bah, « je t'ai attaqué à 7 et tu vas reprendre 4 après si tu ne bloques pas avec genre 3 cartes », ça reste quand même très fort. Donc est-ce que les options qu'on connaît des spoilers vont permettre à d'autres decks de mieux porter Decimator ? C'est pas 100% sûr, c'est possible mais c'est pas 100% sûr. Donc peut-être que Dory va rester relevant pour ça. Et en tout cas, tant que les cartes ne sont pas sorties, si vous voulez jouer Decimator, actuellement, Dorinthea est probablement la meilleure porteuse de cette arme. Et la liste, bah, comme on le voit avec les résultats de PDPU, surtout dans une méta un petit peu ciblée, la liste est très bonne. Et elle a la place pour rentrer des tech cards, pour s'adapter un petit peu à ce que la méta veut faire et à ce que votre méta locale veut faire. Et du coup, si vous aimez bien beaucoup défendre, outgrind votre adversaire, jouer sur du long terme, pas laisser passer un point de dégâts, et juste genre regarder votre adversaire essayer, et être en mode nope, bah cette liste, elle est très bien pour ça. Et bah, elle est objectivement très bonne aussi, hein, c'est une très bonne liste. Et comme on a commencé par dire, en fait, le pool de Warrior, les armes de Warrior, l'identité de la classe et le pouvoir héros de Dorinthea, sont tout autant de choses qui sont très fortes. Surtout depuis Editor, ce qui a ramené des très bonnes cartes pour la classe. Et du coup, vous avez une classe qui a un pool de cartes et un seuil de power level dans ses decks qui est très bon. Donc, par défaut, c'est très dur de faire un mauvais deck Warrior à l'heure actuelle. Il y en a des meilleurs que d'autres, et voilà. Mais la classe est hyper flexible. Dorinthea, c'est probablement un des meilleurs warriors à l'heure actuelle de par sa capacité à utiliser le mieux la liste à chat et à être la seule qui peut utiliser correctement Dawnblade et possiblement d'être le meilleur représentant de Decimator aussi. Et du coup, ça en fait un héros qui est très intéressant actuellement, qui est très bon et auquel vous devriez vous intéresser si vous aimez bien un petit peu Warrior et le fait d'attaquer avec vos armes.
Et sur cette conclusion très longue.
Ouais, mais normal.
À mon avis, on va pouvoir s'arrêter. Parce que je crois qu'on a tout dit sur les Warriors.
Bah, t'allais dire un truc par rapport au fait que Dory...
Ouais, alors en fait, j'ai réfléchi parce que peut-être Olympia prendrait la place de Dory pour jouer Decimator, mais en fait, taper deux fois avec la hache, en fait, c'est pas mal. Et le fait que ça n'arrive jamais avec Olympia est peut-être un petit peu dommage. Mais on verra quand ce sera le moment d'y réfléchir.
C'est clair.
En attendant, on vous rappelle que toutes les listes dont vous a parlé seront en description de cette vidéo, qu'on a accédé à la demande qui était qu'on ait un compte tour zéro sur Fabrari qui recense les listes dont on parle et petit à petit, Nightcrash, au fur et à mesure que les vidéos sortent et qu'on prend le temps de s'en occuper, upload les listes des anciennes vidéos, etc. Enfin, on va se mettre là-dessus. Donc, de toute manière, vous pourrez retrouver toutes les listes sur ce compte-là. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir venu jusque-là. Et ben, du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour le débrief de la saison de ProQuest, les nôtres, mais les ProQuest de manière générale. Et on verra à quel point l'épisode dure 2 ou 3 heures. On va très probablement avoir...
Et puis, j'ajoute aussi que rester à l'écoute, bah, du coup, quand vous écouterez cet épisode, au vu de la timeline, c'est possible que notre vidéo spoiler sorte plus ou moins autour du prochain épisode. Donc, restez attentifs sur la semaine qui arrive et surtout le week-end prochain pour ça, parce que ça va arriver. On remettra de toute façon des posts et des trucs pour donner l'heure précise et tout ça, évidemment. Mais voilà, pensez que ça arrive aussi.
Et sur ce, à la semaine prochaine.